Ton émission du midi, l'émission d'Angers sur les ondes de Boulevard 102.1 qui sera une émission spéciale départ de François Legault. Le premier ministre qui a annoncé à 11h ce matin sa démission avec énormément d'émotion. Donc l'ère François Legault est terminée. Il va rester en poste le temps qu'on trouve un nouveau chef pour son parti politique. Celui-là qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire la coalition Avenir Québec. Donc, comme Justin Trudeau l'avait fait l'an passé, le 6 janvier, le 14 janvier 2026 marque la démission de François Legault. Dans cette émission spéciale, évidemment, on va jaser avec Antonine Iaccarini de ce départ de François Legault. Quelle sera la suite pour la CAQ, les réalisations de M. Legault? Midi 35, Claude Villeneuve va être avec nous, ancien chroniqueur politique, donc il remet ses bottes de chroniqueur politique. Mais on va surtout lui parler parce qu'il a été chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville durant 4 ans et on veut dresser le bilan de la CAQ dans la région de Québec. Midi 45, Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal va être avec nous pour dresser le bilan économique de la CAQ et de François Legault. Lambert Drainville aux alentours de 13h, chroniqueur que vous entendez sur nos ondes 2 fois par semaine dans l'émission On en jase. Ex-directeur des communications au sein de la CAQ qui va venir nous jaser. Lambert va sûrement avoir quelques petits insides à l'interne très intéressants. Éric Gingras, président de la centrale syndicale du Québec, va être avec nous à 13h20. On le sait, la CAQ a livré de lourdes batailles contre les partis syndicales, donc contre les partis syndicaux. Donc, comment Éric Gingras voit le départ de François Legault et le bilan. Et 13h35, il a rédigé les discours de François Legault. Il est maintenant rendu auteur, notamment avec son livre « Anti-civilisation ». Étienne-Alexandre Beauregard sera avec nous pour fermer cette émission « On en jase » spéciale départ de François Legault. Antonine Iaccarini, comment vas-tu?
Ben écoute, ça va bien. Je pense que ça va être une grosse journée. Hein?
Oui, ça va être une... ça va être une énorme journée. Mathias Turcotte, t'es salué?
Merci, ça va très bien. Selon moi, ça va bien pour beaucoup d'auditeurs aussi qui ne s'attendaient pas à une si belle nouvelle. On va se dire honnêtement, François Legault n'était plus aimé de la population québécoise. Il y avait même beaucoup de personnes qui le détestaient. Selon moi, je parle à certaines personnes qui nous écoutent qui étaient juste plus capables de François Legault. Fait que sa démission, pour plusieurs, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui.
418-971-1021, je prends les présents. Je veux savoir qui est à l'écoute de cette émission spéciale On en jase sur le départ de François Legault. 418-971-1021, faites juste répondre oui ou non. Êtes-vous content qu'il parte? Vous n'êtes pas content qu'ils partent, on va faire les pourcentages quelque part durant l'émission. Également, pour nous suivre, blvd.fm, c'est la web radio. Vous allez retrouver les meilleurs moments de l'émission aussi après l'émission. Notre application Boulevard 102.1, Apple Store, Google Play Store, téléchargez ça parce que là, aujourd'hui, si vous vous promenez partout, ben vous ne nous manquerez pas avec l'application Twitch.tv, blvd.fm. Je vous lance la même question. Les auditeurs sur Twitch, vous êtes nombreux. Oui ou non, vous êtes heureux du départ de François Legault. Et également, abonnez-vous à notre page YouTube parce que vous retrouvez les meilleurs événements de Boulevard, notamment les meilleurs podcasts. Jusqu'à présent, je pense on est pas mal dans le oui, on est content.
Je pense que le gros défi aujourd'hui, ça va être de trouver un nom. Ah, sur Twitch, bon, on a Jake qui écrit non. Pour l'instant, ça dans son camp, mais beaucoup de oui, beaucoup d'auditeurs contents.
Antonine Iaccarini, ça fait à peu près un an qu'on se dit il va partir. C'est le sondage de ce matin, Palace Data, là, 11% la CAQ, à égalité au dernier rang avec Québec solidaire qui a fait dire à François Legault, ouais, il est à chaque mon camp.
Ouais, c'est le genre de décision que c'est comme de l'eau qui monte, hein, goutte à goutte. Là. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. C'est comme se séparer de son chum ou sa blonde. Là. C'est pas une affaire. C'est juste, à un moment donné, il y a la goutte qui fait déborder le vase. Et ce sondage Palace Data est catastrophique pour la CAQ qui se retrouve à égalité avec Québec solidaire. Et on s'entend que ça fait des mois qu'on dit que c'est catastrophique pour Québec solidaire, qui est un parti qui n'a jamais été au pouvoir, alors que la CAQ avait commencé son mandat en 2022 avec 90 députés, une super majorité. Donc, c'est vraiment une débandade pour le parti de François Legault. Le PQ, pendant ce temps-là, toujours premier dans les sondages, ça continue de bien aller. Parti libéral qui est à 24 %. même s'il y a une crise, même s'il n'y a pas de chef, même si. Donc, et le Parti conservateur, qu'il faut le dire quand même, là, qui reste 16 % c'est des bonnes nouvelles pour Éric Duhaime, mais pour la CAQ, c'était le dernier clou là, dans le cercueil du leadership de M. Legault.
On écoute d'ailleurs François Legault qui explique pourquoi il part.
Le Québec fait face actuellement à des grands défis. On doit, entre autres, redessiner notre économie pour laisser aux prochaines générations des emplois d'avenir. On doit aussi arrêter le déclin du français, en particulier à Montréal. Il en va de l'avenir de notre nation. Et je souhaite vraiment que la prochaine élection porte sur les grands défis qu'on a au Québec et non sur une simple volonté de changement.
Antonine, est-ce qu'avec un nouveau chef ou une nouvelle chef, la CAQ va être capable d'aller en élection sans parler de son bilan des 8 dernières années? Parce que c'est le souhait de François Legault, là, dire « si c'est pas moi, on va arrêter de parler de ce qu'on a fait, puis on va plus parler de ce qu'on va faire ».
Je pense que c'est un souhait irréaliste. Là. Le bilan de la CAQ ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le seul scénario dans lequel, disons, un chef de la CAQ irait en élection un peu plus avec les coups des franges, c'est si on a un candidat de l'extérieur qui arrive. Donc là, aujourd'hui, Mario Dumont a fermé la porte, mais il est souvent vu comme le sauveur. Hein, son nom circule régulièrement. Mario Dumont n'aurait pas nécessairement eu à porter le bilan de François Legault, mais il aurait quand même fallu, il y aurait eu des candidats autour de lui, des anciens ministres qui, eux et elles, auraient dû porter le bilan. Donc, tu peux pas te sauver là, de deux mandats complets de pouvoir. C'est l'usure du pouvoir. Hein. C'est ça, quand on parle d'usure du pouvoir,
vraiment.
C'est qu'il a fallu que tu prennes des décisions, t'as fait des mécontents, t'as fait des erreurs, puis ça, ben, ça disparaît pas du jour au lendemain. Mais le fait que M. Legault s'en aille aujourd'hui, ça ouvre une petite fenêtre, un petit peu d'oxygène, là, t'sais, de sortir juste un peu la tête de l'eau pour être capable, pour la CAQ, de passer à un prochain chapitre.
Salut Sam, chauffeur d'autobus au RTC, qui dit « ça se bat pas ben ben dans l'autobus pour être déçu de son départ ». On écoute Mario Dumont à cet effet qui a fermé la porte à quadruple tour sur un possible retour en politique.
« À savoir, en public et en privé, à toute personne concernée, que je n'avais aucun intérêt, aucune intention, dans aucun scénario. »
On t'écoute, hein? On t'écoute.
Donc, vous m'avez bien compris, je suis content de voir que ce soit le cas. Et j'assume, puisqu'on parle de ça, j'assume bien, j'ai encore un sens de l'État, un amour du Québec. Je n'ai plus le sens du sacrifice. Même si on disait c'est gagné, c'est un plateau d'argent, sur le plan humain, je n'ai plus le sens du sacrifice, ce qui fait que je suis plus respectueux comme animateur de tous ceux qui vont en politique.
C'est vrai, il n'a plus le sens du sacrifice, puis aussi, même si on me disait que c'est gagné, oui, ça serait gagné comme chef de la CAQ, mais est-ce qu'il comme veut vraiment revenir comme troisième parti à l'Assemblée nationale, ce qu'il a vécu tellement longtemps, là, des
Ben, tu sais, dans ta décision, tu regardes aussi le véhicule, là, le char que tu achètes, là. Puis tu dis, bon, il n'y a plus de pneus, il est tout pété, faut que je change la transmission, tabarouette, hein, il y a du travail. Est-ce que tu n'es pas mieux, mettons qu'un jour tu veux devenir premier ministre, de laisser un peu d'eau couler sous les ponts, puis de regarder c'est quoi tes meilleures options pour devenir premier ministre?
Ça, c'est si un jour il veut encore devenir premier ministre, ça, on le sait pas. Parce qu'il a dit le sens du sacrifice. Oui, il y a le sacrifice de devoir relever un parti qui est à terre, mais il y a le sacrifice aussi d'être premier ministre, puis c'en est tout un. Là. Le monde ne réalise pas. On critique beaucoup le premier ministre, puis François Legault a été critiqué au cours des dernières années, puis avec raison, on va se dire à plusieurs reprises. Mais c'est un méchant sacrifice. Tu mets tes enfants, tu mets ta famille de l'avant, tu deviens une personnalité publique. Toutes tes décisions sont remises en question par le Québec en entier.
Tu te fais ramasser continuellement. Vraiment. Tu te fais envoyer promener. Puis, tu sais, tu dis premier ministre, mais juste député.
Ah oui, politicien,
t'sais,
en
juste
général.
Juste aller en politique, il faut saluer leur sens du sacrifice. Puis, travailler aussi soir et fin de semaine pour avoir déjà discuté de ça avec Mario Dumont lui-même, parce que moi, j'ai pas manqué l'occasion de se poser la question. Pas cette année, mais dans les années précédentes, parce que je me disais, c'est pas vrai que ce gars-là va jamais retourner en politique. T'sais, il est tellement apprécié. Les gens l'ont dans leur quotidien à la télé. Donc, mais il me disait, moi, j'ai plus envie de faire ça. J'aime mon travail. Donc, on règle ce dossier-là et clos. Ce ne sera pas Mario Dumont.
Fred, qui nous pose une question par texto, n'hésitez pas à poser-nous-les. 418-971-1021, on en jase, c'est un show qu'on fait pour vous. Selon vous, est-ce que c'est une décision qui a été prise dans les derniers 24-48 heures? Moi, Anto, je te donne mon avis. Oui, parce que quand il est venu en entrevue ici à Boulevard 102.1 le 17 décembre dernier au matin, il parlait comme un gars qui allait rester, il parlait comme un premier ministre, il parlait comme un homme d'État. Il avait une vision claire sur comment il voulait faire durant l'année électorale. Mais le sondage qui est sorti hier soir dans l'actualité l'a assassiné.
Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est pas une question qui se répond par oui ou non, parce que c'est pas une décision qui se prend. C'est pas non, 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 puis du jour au lendemain, c'est oui. Moi, je pense qu'effectivement, dans sa tournée d'entrevue avant Noël, puis tu sais, il faut mettre les gens en contexte, là, parce qu'on n'écoute pas, tu sais, moi, nous autres, on est fous, on écoute tous les médias, là, mais oui. Les gens écoutent 2-3 médias ou un dans leur vie. Monsieur Legault, il est allé partout avant Noël. Il a fait toutes les émissions de télé, de radio. Il a fait tous les médias écrits, table éditoriale aussi dans le cadre là, de son annonce sur la vision économique. Et il en a fait des émissions. Là. Et moi, je le croyais quand il disait qu'il allait rester. Surtout que M. Legault, on peut y trouver bien des défauts, là, mais c'est pas quelqu'un qui va vous dire beaucoup de BS, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu sais, par exemple, quand un premier ministre prévoit faire un remaniement ministériel, il va dire « c'est pas dans les cartons, c'est pas dans les cartons », puis un bon matin, il va décider de le faire. Bien, M. Legault, il l'a calé 3 mois d'avance. Il est très transparent. Donc, moi, je pense que quand il est venu dire « je reste, je serai sur les rangs, arrêtez de me poser la question », il y croyait. Le temps des fêtes a fait son œuvre. Tu réfléchis, tu jases avec ton épouse, avec tes fils, les choses ralentissent, puis au retour, quand il y a un sondage catastrophique qui te met à égalité avec QS, ben, ça règle le cas.
Des fois, il est trop transparent, Cruella pourrait nous le dire.
Oui, il pourrait faire preuve d'un peu moins de transparence.
Mais je pense aussi, c'est pas du jour au lendemain, mais le temps des fêtes a fait son temps, là, pour vrai. Parce qu'il faut penser, François Legault, il est retourné dans sa famille, il a eu le temps de se poser, plus de réfléchir. Son épouse a eu le temps aussi de y jaser davantage, puis on le voyait pendant son point de presse. Je veux pas dire que c'est elle qui a pris la décision, mais pour moi, le non-verbal de son épouse disait « il était temps qu'il démissionne ». Fait que au final, c'est une décision qui se prend en famille, puis selon moi, il y a plusieurs membres de la famille de François Legault qui ont dû dire « hey, je pense que t'as fait ton temps. »
Le temps était venu. Et il a pris la seule décision qui s'imposait. On a été un peu surpris que ça arrive si tôt. Je pensais qu'il allait encore un peu persister. Ouais. Mais comme tu dis, là, le sondage qui est sorti hier soir, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien là, qui le raccrochait.
Mm-hmm. On continue avec des candidats qui pourraient venir de l'extérieur. Mario Dumont vient de fermer la porte. Et là, je vais te poser une double question. Qui est le parti le mieux placé pour, si je suis de l'extérieur, dire « je me lance dans la course », le Parti libéral ou la CAQ?
Tu veux dire, mettons, toi, tu veux devenir premier ministre?
Oui, c'est ça. Mettons, ben oui, exactement. Puis là, je regarde.
Ben d'abord, tu choisis le parti selon tes valeurs et non pas pour les chances d'être
au
pouvoir.
Oui, mais on s'entend.
Mais dans la vie, ça marche pas toujours.
La CAQ, c'est une coalition. C'est un peu...
Mais t'as raison.
Ça tire un peu partout.
Mais t'as raison, parce que regarde, Mario Dumont, c'est un nom qui circule souvent, mais tu sais, moi, je veux dire, le Parti libéral, par exemple, sous Philippe Couillard, c'était pas assez nationaliste pour Mario Dumont, mais du côté gauche-droite, c'était quand même plus à droite. Le nom de Guy Cormier, l'ancien...
c'est le nom que je voulais te poser, parce que là, Guy Cormier dit non au Parti libéral.
Oui.
Puis là, le Parti libéral, on s'entend, fallait agir rapidement, c'est une course très rapide qui avait lieu, faut ramasser 750 signatures, faut ramasser 30 000 piastres, puis t'embarques là-dedans avec 4 enquêtes de possible corruption, financement illégal. Là, tu fais « oh, sais-tu, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre ». Mais la CAQ, c'est pas loin du Parti libéral. Puis on a déjà entendu le nom de Guy Cormier circuler pour la CAQ.
Absolument.
Ça pourrait-tu y tenter?
Moi, il a fermé la porte à double tour, Guy Cormier, cette semaine. Donc, la réponse est non. Mais pour répondre à ta double question, ta deuxième question, c'est quoi? Qui est le mieux positionné entre le Parti libéral et la CAQ pour 2026? Mettons que tu veux devenir premier ministre puis que tu te magasines un parti pour être chef. Je miserais sur les libéraux. Oui, il y a des enquêtes en cours. Oui, c'est la crise. Oui, tout ça. C'est un parti qui est montréalais, qui ne connecte pas avec les régions, avec les francophones. Mais le Parti libéral, là, ils ont 15 comtés garantis. La CAQ, zéro. Mm-hmm. Zéro. Tu pars de quelque chose. Puis deuxièmement, il y a des gens dont le cœur est rouge, là, sont libéraux. Ils vont voter libéral jusqu'à la fin de leur jour. La CAQ, c'est pas la même chose, contrairement au PLQ et au PQ.
Et en plus de ça, oui, les libéraux sont dans un scandale, mais un scandale créé par un chef qui est resté là 5 mois. Là.
Ah, mais là, je vais m'ostiner avec toi, non, Mathias, mais... parce que les problèmes éthiques du Parti libéral n'ont pas commencé avec Pablo Rodriguez. Mais il y a une partie qui va être évacuée avec sa démission.
C'est ça, il y a quand même un bilan de 7 ans à défendre du côté de la CAQ. Pour moi, je comprends, on revient à l'époque de Jean Charest, puis ça a toujours fait partie de l'essence puis de la vision que le Parti libéral a au Québec. Sauf que, pour moi, défendre le bilan de 7 ans de François Legault avec ses taux d'impopularité présentement, c'est tout un défi qui est, selon moi, plus grand que relever un parti après une saga de brownie comme qu'on l'a vu. Ça reste tout un défi. J'aimerais ça vous amener sur une autre question, parce qu'on parle de quelqu'un de l'extérieur qui pourrait arriver pour la CAQ. Est-ce que quelqu'un d'extérieur, si on parle pas d'un nom énorme à la Mario Dumont, est-ce qu'il pourrait vraiment tasser, par exemple, un Simon Jolin-Barrette? Parce que, honnêtement, Simon Jolin-Barrette, selon moi, à la prochaine course à la chefferie, va avoir de très forts appuis chez la coalition Avenir Québec. Est-ce qu'un nom de l'extérieur, si c'est pas un énorme nom comme Mario Dumont, pourrait aspirer à seulement la chefferie de la CAQ?
C'est une bonne question. Moi, ma réponse, c'est non. Si t'es pas une grosse vedette et que t'es pas déjà député ou quelqu'un de connu, c'est extrêmement difficile de participer à une course à la chefferie et de pas finir avec 2%. On va voir les règles que la CAQ va mettre pour la course à la chefferie. Selon la sévérité, là, selon à quel point là, on est exigeant dans le nombre de signatures, les dépôts, etc., ça se peut que ça décourage des gens qui ont des ambitions élevées. Puis j'en profite pour vous dire, puis, je pense que je vais l'écrire en chronique texte cette semaine, parce que tu sais, on a eu Mario Roy là, cette semaine, là, qui on se dit, voyons donc, je peux pas croire qu'il persiste à vouloir se présenter à la course à la chefferie.
Qu'on a eu en entrevue ce matin à 9h20.
On voulait en parler ce midi, mais là, vous comprenez qu'on va moins en parler que ce qui était.
Ça va quand même se retrouver sur le blvd.fm, soit dit en passant.
Absolument.
Si vous voulez aller écouter un show politique assez bizarroïde, Mario Roy.
Bon, donc, Mario Roy. Après ça, cette semaine, on a vu le chef du nouveau parti populaire du Québec, M. Brisson, si je ne m'abuse, qui est assez spécial lui aussi, puis qui a fait tout un lancement de son parti. Max l'a eu en entrevue, c'était complètement cosmique. L'an passé, on a eu Denis Coderre. Vraiment, ça aussi, c'était comme un ovni là, dans le paysage politique. J'aimerais, mon petit mot féministe du jour, les garçons, j'aimerais saluer l'exceptionnelle confiance en soi de l'homme blanc.
Oui!
Parce que ça se voit chef, ça se voit premier ministre. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans des partis politiques puis qui essaient de recruter des femmes, OK? Puis là, faut les rencontrer 12 fois puis les convaincre, ben oui, t'es assez bonne, ben oui, t'es bonne, tu vas être capable. Alors que les gars appellent, sont comme, oui! « Me voyez, premier ministre, moi. »«
J'y vais, moi. »«
Au pire, ministre des Finances. Nommez-moi ministre des Finances, il n'y en a pas de problème. » Donc, je vous admire, messieurs. Je t'avais de faire un parfum. Ça va sentir la confiance en soi de l'homme. Ouais. Et je vais m'en asperger à tous les matins.
Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de joindre à nous, François Legault a démissionné ce matin à 11h lors d'une conférence de presse. Donc, on est en émission spéciale d'émission du premier ministre. François Legault est avec Antonine Iaccarini dans le caucus. Va suivre là, dans la prochaine heure. Claude Villeneuve pour un bilan de la capitale nationale aux alentours de 12h35 et Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal pour un bilan économique de François Legault après ses 7 ans au pouvoir aux alentours de 12h45. Énormément de réactions, évidemment, de la sphère politique. Je salue Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit que la journée d'aujourd'hui appartient bien sûr au premier ministre. Nous reprendrons les activités et la joute politique normale ultérieurement. Donc, il a souligné justement l'engagement sincère du premier ministre François Legault envers le Québec. On a également Bruno Marchand qui a salué le travail de François Legault aussi, en mentionnant que même dans les désaccords, François Legault a toujours été à l'écoute. Bruno Marchand qui va faire un point de presse aux alentours de 13h30. Et là, Antonine, tu me transfères la réaction de Charles Milliard qui mentionne qu'aujourd'hui, François Legault prend une décision déterminante pour le Québec, pour lui et pour ses proches. Premier ministre, depuis 2018, il aura occupé l'une des plus grandes fonctions au service des Québécois, notamment pendant la pandémie de la COVID-19. Je salue son engagement. Engagement politique est constant au cours des 25 dernières années. C'est ce qui va arriver l'entour. Là, on va se positionner du côté de la sphère politique. On va saluer l'engagement du premier ministre. On va lui laisser, justement, on va lui dérouler le tapis rouge pour une sortie enviable. Et par la suite, on va recommencer à se coltoyer la semaine prochaine.
C'est ça. C'est comme s'il y avait une petite trêve de 48 heures, peut-être. Moi, je pense que ça ne durera pas longtemps.
Politique.
Un cessez-le-feu, exactement.
Donc, exactement. Les gens nous posent beaucoup de questions sur, justement, le futur ou la future chef de la coalition Avenir Québec. On a eu des commentaires à l'effet que, hey, moi, je vois Simon Jolin Barrette. Hey, moi, je vois Sonia Lebel. Mais tout à l'heure, dans le point de Max, quand on s'est infiltré là, moi et toi, Antonine, t'as parlé avec conviction de Geneviève Guilbeault.
Ouais.
Pourquoi?
Premièrement, parce que Max nous a obligés à dire quelque chose puis à se mouiller, mais ouais. ma position est plus nuancée que ça, évidemment. Mais Geneviève Guilbeault, je pense qu'elle sera de la course, assurément, qu'elle est très sérieuse, qu'elle s'organise depuis des mois déjà. Okay? C'était dans les bruits de couloir, il y a des gens dans son équipe qui préparaient le terrain. Elle a des gens autour d'elle, elle a un plan. Alors que j'ai l'impression que les autres, disons, attendaient. Et cette longueur d'avance-là, parce que oui, effectivement, elle a des faiblesses aussi, là, puis on peut faire la liste des forces et des faiblesses de chacun des candidats potentiels, mais l'organisation en politique, c'est très important, parce qu'à la fin de la journée, ça prend des signatures, des dons puis des votes, OK? Et oui, elle est peut-être un peu brûlée parce que il y a eu le pouvoir dans les dernières années, puis qu'il y a eu le troisième lien, qu'il y a eu la commission Galland, etc., mais demeure que... C'est une politicienne, une communicatrice habile.
Puis c'est une leader.
Bien, écoute, en débat, là, Geneviève Guilbeault, elle risque d'être assez bonne aussi. En entrevue, elle est redoutable. Moi, je pense qu'elle a des chances sérieuses d'y arriver, même si les dernières années n'ont pas été faciles.
Moi, mon choix, c'est Simon Jolin Barrette. Et ça fait partie de mon fantasme politique de la dernière année où... Lorsque Charles Milliard se coltoyait avec Pablo Rodriguez, j'ai dit « Je veux que Charles Milliard batte Pablo Rodriguez. Je veux que Jolin Barrette prenne la place de François Legault. Puis je veux un combat des chefs entre PSPP, Simon Jolin Barrette, Charles Milliard. Je pense que ça va être du bonbon. Ouais. » Fait que moi, je demeure avec ce choix-là. Je trouve que Simon Jolin Barrette a un parcours sans faille en politique. C'est pas le plus dynamique puis le plus entraînant. Mais on est peut-être rendu à une place où, justement, on a besoin de quelqu'un qui va nous rassurer. Justement, je me tourne vers Mathias parce que je vais avoir le fruit de la pensée de la jeunesse de 21 ans. La jeunesse de 21 ans... Ben, t'es comme moi, t'es rendu trop vieille.
Oh. Ah, moi aussi,
c'est
je m'en viens vieux,
je
suis rendu
à 22.
Je sais
qu'il faut pas dire ça aux femmes. Mais la jeunesse de 22 ans, elle voit... J'ai deux questions pour toi, Mathias. Vas-y. Elle voit comment la CAQ, puis qui qu'elle voit gérer la CAQ?
Ben, honnêtement, moi, en tant que jeunesse, je vois la CAQ comme c'est là que ça se passe. Faut qu'il y ait une restructuration du parti. Puis s'il n'y en a pas de parti, selon moi, il est voué à mourir. Faut qu'il réussisse à aller chercher, puis aller chercher la population en général. Parce qu'au cours des dernières années, François Legault a une grosse cote de popularité chez des 55 ans, 65 ans et plus. Là, avec un chef un peu plus jeune, on parle de Simon Jolin Barrette, Geneviève Guilbeault. L'objectif, pour moi, ce sera de rejoindre la population canadienne, québécoise plus jeune. Donc, on parle de, mettons, 18 à 54 ans. Les travailleurs, vraiment, rejoindre la population parce que va falloir rejoindre plus de monde si on veut relever ce parti-là. Je veux revenir sur Geneviève Guilbeault. J'écoutais Antonine, puis je trouve ça intéressant parce que Geneviève Guilbeault, au cours des dernières années, elle s'est un peu faite mettre de côté par François Legault, entre guillemets. Puis selon moi, ça peut jouer en sa faveur. Parce que d'un certain sens, maintenant, elle va pouvoir sortir puis se détacher un peu plus du lait que François Legault laisse par rapport à un Simon Jolin Barrette, par exemple. Parce que là, on a une Geneviève Guilbeault qui est passée du transport, qui a descendu de ministère, qui a perdu son poste de vice-première ministre. Fait qu'elle a pu littéralement, en quelque sorte, se détacher de François Legault puis dire, d'un certain sens, j'étais pas d'accord avec toutes ses décisions, je supportais pas nécessairement à 100%. C'est ça qui explique le fait que je suis descendu dans la hiérarchie.
Chose certaine, nos auditeurs, 418-971-1021, continuent d'interagir en si grand nombre. Ça passe pas, Geneviève Guilbeault. Oh, on ouais. est à Québec, puis son comté dans nos
J'en doute pas. Je vous le dis, là, je le sais, ça sera pas facile, mais elle est organisée. Puis ce que dit Mathias, c'est vraiment intéressant. Elle pourrait être la candidate qui se détache de François Legault, parce que c'est vrai qu'elle était pas... On sentait que le dauphin, c'était beaucoup plus Simon Jolin Barrette que Geneviève Guilbeault. Il lui a enlevé son poste de vice-première ministre cet automne. Donc, peut-être qu'elle, ça lui ouvre une autoroute. Pas une autoroute, mais une ruelle, on va dire.
Il y a eu beaucoup de contestations au sein de la CAQ. Le premier à claquer à la porte, c'est Yuri Chassin, puis il y en a plein qui ont suivi jusqu'à Christian Dubé. Je veux t'entendre là-dessus, Antonine Iaccarini. Yuri Chassin, Maïté Blanchette-Vézina, ça pourrait-tu revenir à la maison et essayer justement la course à la chefferie de la CAQ pour donner ce renouveau-là à ce parti-là?
Ça pourrait, Mais je pense pas qu'aucun de ces députés-là, à part peut-être, ben là, je vais nommer un nom qui fait pas partie des indépendants, c'est François Bonnardel. Hein, parce que François Bonnardel est chez lui en ce moment, puis il est bien fâché de tout ce qui s'est passé cet automne. Moi, je le surveillais du coin de l'œil, parce que je me disais, tu sais, peut-être que lui aussi va vouloir quitter la CAQ éventuellement. Mais c'est quand même un des derniers députés issus de l'ADQ. Donc, dépendamment de comment la dynamique de course à la chefferie se présente. Est-ce que la CAQ devrait revenir à la base et revenir vers l'ADQ, essayer de reprendre le créneau qui a été volé un peu par le Parti conservateur? François Bonnardel pourrait être ce candidat-là, qui sait. Mais pour ce qui est des autres, moi, je pense pas qu'ils ont le calibre. Par contre, ils peuvent jouer un rôle en appuyant un candidat, en disant, moi, si cette personne-là devient chef, je rentre à la maison car nous retrouverions l'essence de ce que devrait être la CAQ.
Y a-t-il un candidat des régions? On parle tellement des régions du Québec, comment c'est important. Puis on ne se le cachera pas, là, nos régions sont mises à mal. Là. Premièrement, avec la carte électorale qu'on était censé parler, avec la Gaspésie qui est élargie. Puis tu sais, je fais juste prendre avec la crise du bois d'œuvre, la région du Saguenay très affectée également, l'aluminium. Est-ce qu'il y a un candidat chez la CAQ de région qui pourrait se présenter et dire hey, « moi, j'ai rallié ces régions-là derrière moi? »
Moi, il n'y a pas de nom qui émerge vraiment des régions-régions. La CAQ a beaucoup de députés dans des, j'ai envie de dire, plus banlieues que régions. Couronne-Nord, Couronne-Sud de Montréal, notamment, et la région de Québec, même si on ne se considère pas comme une région. Je vous annonce que le monde à Montréal nous considère comme une région. Moi, je sais, mais je
on
me stime avec eux tout le temps.
On est la capitale nationale.
Ben ouais. Mais
Montréal, il y a des trous partout dans les rues.
Ah, oui, ça, c'est vrai. Mais M. Legault a traité Montréal comme sa capitale pas mal dans les dernières années
je
aussi. On en reparlera. Tu poseras la question à Claude Villeneuve.
Ça m'a sidéré.
Donc, moi, je n'ai pas de nom qui est issu des régions. Par contre, tantôt, on parlait de jeunesse. Là, on parle de région. Moi, c'est le nom de Mathieu Lacombe, actuel ministre de la Culture, que je voirais comme un espèce de joker dans la course. Lui, il est député en Outaouais. Bon, c'est une région, c'est la région de l'autre capitale nationale, député de Papineau, si je ne m'abuse, qui, lui, est un bon communicateur. Je trouve que son bilan n'est pas aussi lourd que celui d'une Geneviève Guilbeault, et même que Simon-Jolin Barrette, qui, oui, a des accomplissements, mais qui a été plus polarisant pendant le dernier mandat. Il a été ministre de la Famille, ministre de la Culture. Il a quand même plusieurs accomplissements, mais plus discrets. Est-ce que, par exemple, il pourrait décider de vouloir se faire connaître un peu plus?
Hey, un débat, Mathieu Lacombe, Geneviève Guilbeault, l'ancien couple. Mais ils savent des choses personnelles sur l'autre, mais ils ne joueront pas cette game-là, si sont un contre l'autre en politique.
Hey, Jeff, j'avais même pas pensé à ça. Là, je suis comme un peu embêté
par...
J'ai
de te déstabiliser.
Hey, c'est excellent. OK, on veut ça. On
ben
veut
oui,
un
on
débat.
Veut ça. On veut un débat, Mathieu Lacombe, Geneviève Guilbeault.
En tout cas, je vais t'annoncer
Geneviève Guilbeault va essayer de l'amadouer en grime.
Ouais, ben je t'annonce que Mathieu Lacombe n'appuiera pas Geneviève Guilbeault.
Non, hein? Mm-mm. Ça s'est pas bien fini, ce couple-là?
J'irai pas plus loin.
OK, parfait.
Ça veut dire ce que ça veut dire.
C'est ça. Quand on dit « j'irai pas plus loin », ça veut dire « ça s'est pas bien fini ». Merci pour ta non-réponse, Antonine. qu'est-ce qu'on surveille dans les prochains jours, les prochaines semaines? Comment François Legault, selon toi, Antonine, va se positionner? Parce qu'il n'est pas du tout dans la même mouvance qu'un Justin Trudeau. D'un, Justin Trudeau s'est fait mettre dehors avec le départ de Chrystia Freeland et a bénéficié de l'arrivée de Donald Trump pour quand même aller chercher du capital de sympathie avant son départ.
Et il y avait un Mark Carney dans la poche et a prorogué, ça c'est un grand mot qui veut dire tu fermes le Parlement.
Oui, okay? Alors que là, le Parlement ne sera pas fermé. L'Assemblée nationale ne sera pas fermée.
On le sait pas, mais on pense que
ça
non.
Ça me surprendrait.
Bien, il y a une réunion ce soir pour la suite des choses, Conseil des ministres spécial, etc. Donc, on va ça, c'est vraiment un des éléments à surveiller parce que fermer l'Assemblée nationale dans le contexte actuel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je trouve que ce serait une mauvaise décision. Ça va être un peu plus compliqué pour François Legault parce qu'il va être toujours sous le feu des médias, etc. Mais ça va vraiment être à surveiller. Et bien sûr, les règles pour la course à la direction, on surveille ça. Ça va déterminer beaucoup de choses pour la suite des choses.
On va parler de tout ça dans le caucus demain, c'est certain. On fait une courte pause à Boulevard 101 et après la pause, on parle avec deux intervenants très intéressants. Claude Villeneuve, ancien chroniqueur politique, pour les journaux de Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal et surtout ancien chef d'opposition à la Ville de Québec pendant 4 ans. On va parler du bilan de François Legault pour la capitale nationale. Et Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. On va faire le bilan économique de François Legault. C'est ce qui vous attend après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1, spécial démission de François Legault. Émission en jase, émission spéciale, départ de François Legault. Pour ceux qui viennent de joindre à nous, François Legault a démissionné à 11h ce matin. Il ne sera plus chef de la CAQ. Il reste en attendant que la CAQ nomme un nouveau chef. Présentement, dans les meilleurs successeurs à François Legault, c'est un sondage léger TVA. Simon Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault à égalité à 10%. Sonia Lebel-Su à 8%. Christine Fréchette, 5%. Et Bernard Drinville et Guy Cormier ferment la marche à 4%. Mario Dumont, le rappelle, a fermé la porte définitivement ce matin à son émission sur LCN. François Legault n'a laissé personne indifférent durant ces 7 années passées à titre de premier ministre. Et surtout pas ici en capitale nationale, parce qu'après 7 ans, Antonine, on chicane encore à savoir où on va mettre le troisième lien. Puis on s'est chicané pendant longtemps s'il allait avoir un tramway. Fait que c'est un bilan quand même assez mitigé, on se le cachera pas.
Oui, puis avec une grosse députation de la CAQ dans la région, c'est sûr que les attentes étaient élevées envers la CAQ dans la région. Et ça a tellement pris de place, l'histoire du troisième lien, que finalement, tu sais, il y aurait eu possibilité de faire aussi d'autres choses là, en matière de culture, pas juste le transport là, dans la vie, en matière de développement économique. Donc, le bilan est un peu, famélique. Et moi, j'ai hâte de voir pendant la course à la chefferie de la CAQ comment les gens vont se positionner justement sur le troisième lien. Parce que, évidemment, il y a une Geneviève Guilbeault qui a travaillé sur le dossier. Mais maintenant, ben, par exemple, un Simon Jolin Barrette, là, il n'est pas à Québec. Comment il va se positionner?
Il est-tu pour ou contre, en effet?
Il pourrait avoir
il
des gens qui
disent... Il va-tu dire, on le pitch
là,
à l'Est, peu importe le prix? Ça pourrait arriver.
Puis ils vont devoir se positionner. Ça va être très intéressant.
Oui, ça va être très intéressant. Pour en parler avec nous, il a été chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec durant les 4 dernières années, comme chef de Québec d'abord. Claude Villeneuve est au bout du fil avec nous. Bonjour, M. Villeneuve. Merci pour votre participation aujourd'hui.
Écoutez, j'ai envie de commencer en rendant hommage à François Legault en disant « Bonjour tout le monde
». J'adore. Monsieur Villeneuve, à présent, c'est tout à fait normal qu'un politicien quitte. Les adversaires politiques saluent justement le travail qui a été fait de la part de François Legault, saluent justement le fait qu'il a donné 25 ans de sa vie à la vie politique. Vous, vous situez à quel endroit? Est-ce que vous vous dites « Ah oui, je vais saluer la grandeur d'âme de François Legault » ou en tant que citoyen de la Ville de Québec, vous êtes un peu comme moi puis vous faites « Ouais, c'est pas un gros bilan pour notre ville, hein? »
Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut être prudent dans le sens où le bilan des politiciens, surtout quand on a occupé une fonction comme premier ministre, qu'on a été là longtemps, ça s'apprécie avec le temps. C'est toujours, au moment que tu es, c'est toujours le pire moment pour faire ton bilan. Puis surtout en politique, ça finit souvent mal. Hein? C'est rare. C'est des Régis Labeaume ou autres qui partent au moment où ils ont voulu, de la manière qu'ils ont voulu. C'est quelque chose, c'est plus l'exception que la norme. Maintenant, François Legault à Québec, ben, tu sais, c'est intéressant parce que sa fortune politique et ses revers politiques ont beaucoup été liés à sa relation avec la région de Québec. Je pourrais y revenir, mais on passe rapidement partiel dans Chauveau à l'époque, partiel dans Louis Hébert, qui donne une espèce de lancer à la CAQ.
Oui, avec l'élection de Geneviève Guilbeault.
Surtout, mais le dossier du troisième lien. Le dossier du troisième lien qui est un peu le symbole de l'alliance entre François Legault et la CAQ et la région de Québec, mais aussi de sa descente politique, non seulement à Québec, mais dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est l'histoire de François Legault comme premier ministre du Québec est liée à la région de Québec fortement, puis c'est beaucoup à cause aussi du troisième lien.
Quand on regarde les projections sur Québec 125, bon, la CAQ a pratiquement plus de comté, mais notamment dans la région, là, c'est le PQ qui est avantagé pour l'instant, puis même dans Chaudière-Appalaches, là, qui est une région aussi hyper importante pour la CAQ. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau chef, peut-être quelqu'un de l'extérieur, ce serait préférable pour la CAQ s'il veut être en mesure de récupérer la confiance des gens de la région? Est-ce que, par exemple, puis je ne veux pas rendre ça trop personnel, mais est-ce qu'une Geneviève Guilbeault qui devient chef de la CAQ, les carottes sont cuites pour la CAQ à Québec?
Bien, c'est intéressant. Puis avant que j'entende, vous en parliez, tu sais, c'est comment le prochain chef de la CAQ va se positionner sur le dossier du troisième lien, selon que c'est quelqu'un de Québec ou pas. Mais effectivement, comment la région de Québec va se positionner? Ça fait quand même un bout qu'on n'a pas eu un premier ministre à Québec-Québec. Bon, Pauline Marois était élue de la grande région de la capitale nationale, c'était dans Charlevoix, mais pas de la ville de Québec. Ça serait intéressant de voir comment ça va jouer, puis comment un élu de la... En fait, ce serait pas facile pour un élu de la région de Québec de positionner, mettons, le dossier du troisième lien, qui est très populaire à Québec, mais qui n'a rien à mettre bon à la CAQ partout ailleurs qu'à Québec, Chaudière-Appalaches. Comment ça va être joué? Rarement, la région de Québec avait été aussi bien positionnée dans un gouvernement avec la CAQ, les attentes étaient très élevées. Est-ce que, dans le contexte actuel, je pense que ce serait pas un avantage de venir de Québec pour devenir chef de la CAQ dans le contexte actuel? Ça rend peut-être les choses difficiles pour Geneviève Guilbeault. Puis on se cachera pas que Mme Guilbeault, son étoile a quand même pas lié avec le dossier Saclique, hein. On est à une autre place, là. Ça lui serait rappelé. Puis encore là, on jase. Mais on n'a aucune idée du processus que la CAQ va utiliser pour désigner son nouveau chef. C'est un parti qui a pas une structure militante très élaborée. C'est un parti, quand on va dans un congrès, un conseil général de la CAQ, c'est pas mal juste du personnel de cabinet qui sont là. Il pourrait aussi bien décider que c'est un vote du caucus qui va désigner le prochain chef. Alors là, on marche vraiment dans le noir parce que on sait que les députés, les gens, les apparatchiks de la CAQ, qu'est-ce qu'ils vont privilégier? Moi, je pense pas que d'être de la région de Québec, c'est quelque chose qui va être très, très payant pour devenir chef de la CAQ.
Pour rappel, on est en émission spéciale à propos de la démission de François Legault qui a été annoncée à 11h ce matin. On parle avec Claude Villeneuve, ancien chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Monsieur Villeneuve, est-ce que la CAQ a manqué de vision pour la région de la capitale nationale? Et là, je vais penser à la mobilité. On avait en 2015 un beau projet de réseau express de la capitale qui avait été écrit, pensé, imaginé par des professionnels en mobilité, en transport en commun. Et là, on en ressort en 2026 avec un tramway qui commence à se faire, mais seulement l'axe centre-ville.
Bien, c'est parce que c'est ça. C'est que de 2018 à 2026, on a l'impression que ça a été... au beau fixe, le point mort là pour les dossiers de mobilité à Québec. On pense évidemment au troisième lien, ou je ne sais pas combien de moutures qu'on est rendu. On pense au tramway là, qui commence à sortir de terre, mais ça va pas vite. Le réseau de voies réservées qui était prévu sur Robert Bourassa, vers le secteur Chauveau, après ça, Pierre Bertrand, il y avait des attentes par rapport à ça. Tout ce qui est mobilité arrive. Il y a eu des études du ministère des Transports qui parlaient de l'intérêt d'avoir une gestion dynamique des voies, là, un zipper sur Pierre-Laporte, la possibilité d'abaisser le tablier du pont sur le pont de Québec. La vérité, c'est que tout est stallé à Québec depuis que la CAQ est là. Puis c'est vraiment pas ce à quoi on s'attendait. Puis Québec, c'est une région de pouvoir. C'est une région qui sait le poids électoral qu'elle a, puis qui s'attend à avoir des choses en retour qu'elle n'aurait plus au gouvernement. La vérité, c'est qu'elle, sur le plan de la mobilité, à tout le moins, pour la CAQ, le bilan depuis 2018, c'est zéro. Là.
Je quitte le terrain de la mobilité pour aller vers quelque chose de peut-être un peu moins proche des gens, mais qui, en tout cas, moi, ça me tient à cœur. Puis je sais que le maire de Québec aussi, puis plein d'acteurs de la région également. Un autre élément du bilan de François Legault dans la région, c'est que le statut de capitale nationale de notre ville a été amoché. On dirait que la plupart des rencontres importantes se tenaient toujours à Montréal, rencontres diplomatiques, rencontres économiques. Ça aussi, là, ça fait partie du bilan de François Legault dans la région.
Bien, c'est parmi les premiers ministres qui ont une sensibilité Québec forte. Puis là, je pense à des gens comme Jacques Parizeau, je pense à Jean Charest, même à Philippe Couillard. François Legault n'en fait pas partie. On n'a jamais eu le sentiment qu'il y avait vraiment une volonté de... Tu sais, la loi sur le statut de capitale nationale lui avait même conféré le titre de maire honoraire de la Ville de Québec. Puis il n'est même pas venu à l'hôtel de ville pour recevoir, pour se faire désigner ainsi. Là, c'est qu'on n'a jamais senti qu'il y avait même un intérêt de la part de François Legault pour Québec. Puis est-ce que c'est ses lieutenants, Mme Guilbeault, M. Julien, au premier chef, qui réussissait pas à lui apporter ces préoccupations-là, ou si c'est dans ses intérêts, dans sa personnalité, si ça lui parlait pas? Mais on serait, tu sais, dans le temps, Jean Charest, il parlait même de venir vivre à Québec après sa carrière politique. On sait que c'est pas arrivé, là. Mais j'ai la misère à imaginer François Legault dire une telle chose. Il y avait pas, donc, ce statut de capitale nationale-là, cette idée-là que Québec, c'est la ville qui est le porte-étendard de la nation. Jamais on a senti chez François Legault que c'est quelque chose qu'il ressentait et qu'il lui parlait lui-même. Puis ça, c'est, ça s'est ressenti de plein de manières dans la façon que ton dossier a avancé, oui, mais aussi dans le fait de tenir ou pas ces rencontres importantes-là à Québec qui font notre ville une capitale.
Claude Villeneuve, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. On en jase et au plaisir de se reparler prochainement.
L'actualité nous en fournira certainement le prétexte.
C'est clair. Merci beaucoup, M. Villeneuve. Passez une belle journée. Plaisir. Claude Villeneuve, ancien chef de l'opposition officielle au niveau de la capitale nationale de la ville de Québec. Antonine, je pense que Claude Villeneuve a tissé... Oh, attends une minute, on va aller écouter un petit peu François Bonnardel en entrevue. Là, ça m'intéresse vraiment.
On l'a vécu en 2011, aux deux élections 2012-2014, où on a fait nos classes. Mais on a été les premiers, cette troisième voie importante pour moi, à briser la dualité politique que le Québec a connue entre les libéraux et les péquistes en 2018. La pandémie a suivi. Je pense que les Québécois ont vu un grand leader face à cette pandémie mondiale. Une élection majeure en 2022. Et bon, si vous me posez la question, des dernières semaines, des derniers mois, pour ne pas dire, qui ont été quand même compliqués.
On y vient dans un moment, mais a-t-il pris la bonne décision, à votre avis?
Alors, l'entrevue va se poursuivre. Là. Évidemment, on va aller avec Gabriel Giguère, un de nos intervenants. Mais bref, on comprend que François Bonnardel va plus vanter l'ADQ que la CAQ.
Bien, c'est ça qui est intéressant dans sa réponse. Moi, je le surveille beaucoup, François Bonnardel, parce que c'est un des derniers élus de la CAQ qui est issu de l'ADQ avec Éric Kerr. Je ne penserais pas qu'Éric Kerr se présente
non,
à
l'entreprise. Non, je ne croirais pas. Je pense que c'est terminé pour Éric Kerr.
Mais comme je vous disais tantôt, la confiance de l'homme fera son œuvre. Mais pour François Bonnardel, qui est représentant qui peut porter une certaine nostalgie chez certains caquistes de l'époque ADQiste, hein, de revenir aux sources. Un Youri Chassin aussi, probablement, aimerait mieux que la CAQ soit plus comme l'ADQ. Donc, moi, je le surveille du coin de l'œil. Puis son appui, s'il ne se présente pas lui-même, son appui va être important.
Ah, t'as entièrement raison. Ça va être un appui très important parce que ça va rallier l'aile qui est encore un petit peu plus de droite économique à la CAQ là, et qui n'a pas transféré chez les conservateurs. Rapidement, à peu près 30 secondes, moi pour moi, bilan de la capitale nationale pour la CAQ, c'est un bilan vraiment zéro. Il ne s'est pas passé grand-chose pour nous à Québec. Là, François Legault pour Québec, pour moi, c'est un raté.
Écoute, évidemment, on fera les bilans plus exhaustifs. Puis M. Villeneuve le disait, là, des bilans, ça se fait plus sur le long terme. C'est dur de faire ça à chaud. Mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais posé la question, un bon coup de la CAQ dans la région. Puis c'est vrai que
c'est dur.
Là, il m'en vient pas. Là. Fait que s'il y a des caquistes qui nous écoutent, qui veulent m'envoyer des idées, allez-y, parce que moi, pour l'instant, c'est des bruits de grillons dans ma tête.
Ben moi, je veux dire, pour moi, le bilan de la CAQ dans la capitale nationale se résume en une chose, tourner en rond. Puis ça, on l'a vu avec un projet de troisième lien.
Vraiment.
On l'a vu avec un projet de tramway qui a tourné en rond pendant un long moment aussi. Puis ça fait en sorte qu'on s'est concentré sur deux projets qui ont été vraiment longs à aboutir, puis qu'on voit le troisième lien qui n'a même pas encore abouti. Ça fait en sorte qu'on n'a pas pu accomplir quelque chose d'autre de concret dans la capitale. Donc,
Christian nous mentionne par texto, continue à réagir, 418-971-101, les Kings de Los Angeles au centre Vidéotron. On passe du bilan de la capitale nationale au bilan économique avec Gabriel Giguère, analyste senior pour l'Institut économique de Montréal. Gab, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui.
Ben, c'est un plaisir.
Premièrement, je vais te souhaiter une bonne année 2026, mon chum, puis on va continuer à faire des chroniques ensemble à la radio.
Assurément, bonne année à toi.
Gab, je commence avec une question super simple. Est-ce qu'on doit se souvenir de François Legault pour Nordvolt ou pour le fait qu'il a tenté désespérément de couper l'écart de richesse entre l'Ontario et le Québec?
Ben, je pense très certainement qu'on va s'en rappeler, notamment pour Nordvolt. Pour ce qui est de l'écart de richesse, j'aurai le temps là, de l'aborder, mais c'est vrai, c'est bien que tu le dis, là, je pense que la filière batterie, ça l'incarne en quelque sorte, une part de son héritage économique qui, faut le dire, c'est dommage, c'est navrant, mais c'est un héritage qui est assez mitigé pour le moment, à tout le moins. Hein. On nous avait vendu en grande pompe avec l'ancien super ministre Fitzgibbon de nous expliquer que ça allait être, vraiment, le Québec allait être les poumons verts de l'Amérique du Nord avec une telle filière. Et ce qu'on voit, c'est que ça a pas mal fait pouet-pouet pour le moment. On va voir comment les autres projets évoluent, mais des Lions électriques, des Nordvolt, ça a fait mal quand même à la vision économique de François Legault. Parce qu'il faut quand même dire que non seulement on a décidé d'aller de l'avant avec cette filière-là, mais on a décidé aussi de s'engager à investir des millions, sinon des milliards dans notre vol qui se sont jamais matérialisés. On parle quand même de quelques centaines de millions de dollars, mais globalement, ce qu'on a vu quand même, c'est un dirigisme économique qui n'a pas fonctionné sous François Legault. Il faut être clair là-dessus, la filière batterie, elle incarne là, en quelque sorte, cette dynamique-là. Il y a ce pan-là qui est important de se rappeler, mais il y a toute la question des finances publiques également. On n'a plus les finances publiques qu'on avait quand François Legault est arrivé au pouvoir, là. Quand on regarde les déficits, ils se sont accumulés, ils se sont creusés. On est devant un gouvernement et un premier ministre qui n'a pas été capable de revenir en arrière. On est vraiment sauté à deux pieds joints dans ce qu'on appelle l'effet cliquet, où lorsque l'on dépense plus, notamment pendant la pandémie, on n'est plus capable de revenir en arrière. On n'est plus capable de dire « ben ce niveau de dépense-là est trop élevé ». On va revenir à l'ère pré-pandémique. Ça a cliqué, là, et on ne pouvait plus revenir en arrière. À tout le moins, c'est les choix qui ont été faits par le premier ministre et par son ministre des Finances, et on en arrive aujourd'hui à un 12,4 milliards de déficit qui est très, très élevé, historique en nominal, bien entendu. Il n'y a pas d'intégration de l'inflation, mais ça reste que c'est très élevé. Et lorsqu'on regarde le niveau de la dette, on a augmenté depuis 2018-2019, depuis l'arrivée de François Legault au pouvoir, de beaucoup. On a augmenté de 78 milliards la dette nette au Québec en 7 ans. Et 7 ans avant l'arrivée de François Legault, ça avait augmenté au net de 5 milliards. Hein, ça avait augmenté beaucoup puis c'était diminué. Donc, on comprend que l'impact sur les finances publiques est tout simplement néfaste et sur celui de l'économie. Et au moins, si on veut être gentil, mitigé. Sinon, on n'a pas eu la problématique de Nordvolt et de la filière batterie. Je pense que c'est assez clair.
Bon, là, on a parlé de la filière batterie, on parle des déficits, on parle des dépenses, tout ça, mais il faut essayer d'être positif aussi. Il y a toujours deux côtés de médaille. Donc, là, je te demande, trouve-nous un bon coup économique de la CAQ. C'est quoi le bon coup des 7 dernières années?
Ben, le bon coup est clairement la baisse d'impôts. Je pense que tu as raison d'ailleurs de le dire. Il y a toujours des côtés positifs. La baisse d'impôts d'un point de pourcentage sur les deux premiers paliers, hein, de passer de 15% à 14% et de 20 à 19%, c'est redonner de l'argent dans les poches des contribuables, ou c'est plutôt simplement d'être moins gourmand envers l'argent des contribuables à travers l'imposition, parce qu'il faut toujours se rappeler que l'imposition, c'est une forme de punition, puis on a juste décidé de moins nous punir. Ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça en laisse plus dans les poches des consommateurs qui peuvent par la suite plus respirer. Donc ça, je pense que vraiment, François Legault a bien fait avec cette mesure-là. Il y a d'autres mesures également, mais c'est à moitié. Quand on regarde le taux de chômage au Québec, il est quand même plus bas que dans le reste du Canada, faut le dire. Mais en parallèle à ça, on a beaucoup embauché de travailleurs dans le secteur public au Québec. À la création d'emplois sous François Legault, c'est davantage fait dans le secteur public. Je parle pas juste du secteur public québécois, mais au Québec, donc j'inclus également les municipalités et le fédéral, par rapport à la création d'emplois au niveau du secteur privé. On a même une diminution du nombre de travailleurs autonomes entre le début de l'arrivée de François Legault et le départ. On peut également regarder d'autres éléments qui ont fait mal. D'abord, il y a celui-là. Puis, la baisse de taxes, j'ai été assez gentil. Je pense que c'est le cas aussi de le dire. La baisse de taxes a vraiment été l'élément positif là, du bilan de François Legault, je pense.
Pour rappel, on est en émission spéciale sur la démission de François Legault. Il l'a annoncé à 11h ce matin en conférence de presse. On parle avec Gabriel Giguère, analyste senior politique pour l'Institut économique de Montréal. Gab, je regarde le bilan de François Legault qui est mitigé en termes d'économie. Lorsque la CAQ s'est fait élire, elle s'est fait élire comme un moteur économique plus à droite. Qu'est-ce qu'un futur chef de la CAQ devra poser comme geste ou devra avoir comme discours pour relancer la CAQ dans cet axe-là?
C'est une très bonne question parce qu'on a vu tout récemment, là, il y a quelques mois, la vision économique de la coalition Avenir Québec, et je ne considère pas que c'est une vision qui est compatible avec une vision qui est de droite, ou plutôt une vision qui est en faveur du libre-marché. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de tourner la page de la vision économique actuelle de la coalition Avenir Québec, qui constitue essentiellement à dire que c'est le rôle du gouvernement d'orchestrer le développement économique. En quelque sorte, il y a vraiment une vision qui s'inscrit dans l'interventionnisme. Hein, c'est l'État qui va dire où mettre l'argent essentiellement, ou plutôt de demander essentiellement, comme on n'a plus beaucoup d'électricité, on va vous dire quelle entreprise va en avoir, quelle entreprise l'entreprise n'en aura pas, plutôt que de dire ben on va permettre aux nouveaux joueurs de produire eux-mêmes de l'électricité ou d'acheter de l'électricité à des producteurs indépendants. Hein? Ce type d'approche-là serait bien meilleur. En fait, c'est simplement de dire ce n'est pas le gouvernement qui va développer le Québec, c'est plutôt au gouvernement d'être moins gourmand, de mettre moins de réglementations pour permettre aux entrepreneurs qui ont vraiment le réel vecteur de développement économique. Et comment ça peut se matérialiser très concrètement en matière de politique publique, c'est de réduire drastiquement les subventions envoyées aux entreprises et de prendre ça et de façon symétrique de dire « réduisons l'impôt sur les sociétés ». Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés au Québec, on est à 11 % au niveau du fédéral. Si on prend l'ensemble des milliards en subventions annuelles qui sont envoyées de la part du provincial, on pourrait réduire ça à près de 5 % plutôt que 11 %. C'est des chiffres qui sont accessibles sur Statistique Canada. Et ça, ce que ça viendrait faire, ça viendrait envoyer un message extrêmement clair aux entrepreneurs. Venir faire de la business au Québec, c'est intéressant. Le gouvernement vous met pas de bâton dans les roues, est moins gourmand. Et là, un dynamisme économique va pouvoir être très intéressant au Québec parce que l'un des éléments qu'on a dit aussi d'entrée de jeu, c'est le gouvernement Legault voulait réduire l'écart avec l'Ontario. Et il est parvenu, il faut le dire. En réalité, par contre, quand on compare aux autres pays de l'OCDE, ce qu'on constate plutôt, c'est que l'écart s'est creusé entre le Québec et les autres pays de l'OCDE. Mais l'écart avec l'Ontario s'est encore plus creusé. Autrement dit, le dynamisme économique en Ontario est très bas par rapport aux pays de l'OCDE. Québec est juste un petit peu moins pire. Et donc, c'est ça la réalité, c'est que l'Ontario ne fait pas bien au courant des dernières années.
Fait qu'on n'a pas tant gagné, mais plus l'Ontario qui a perdu. Gabriel Giguère, c'est toujours un bonheur de te parler. On va avoir la chance de te reparler à chaque semaine dans l'émission On en jase pour l'année 2026. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu du bilan économique de François Legault. Et on se parle la semaine prochaine.
Toujours un plaisir, à la semaine prochaine.
Cool. Salut, mon ami. C'était Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Je vous aime, les auditeurs. Continuez à réagir 418-971-1021 parce qu'il y a des gens qui ont trouvé des bonnes réalisations à François Legault. Je suis d'accord avec les deux réalisations qui vont être mentionnées. La première, Legault a signé l'électricité avec Terre-Neuve, en effet, pour le développement hydroélectrique. Et l'autre, les maternelles 4 ans. Moi, je suis pour les maternelles 4 ans parce qu'il y a tellement de milieux défavorisés où l'enfant ne fait pas progresser que j'ai trouvé que c'est une bonne mesure.
Moi, je suis en désaccord. J'ai un texte là-dessus. Vous pouvez le googler.
On va se faire un débat.
C'est la promesse qu'il faut briser. J'avais écrit une chronique là-dessus parce que je trouve qu'on dédouble les CPE.
Oui, avec les CPE, en effet.
Et ça finit comme ça devait se terminer. C'est-à-dire qu'on en ouvre quelques-unes puis finalement, on arrête là. Puis c'est la même affaire que le PQ avait faite. Bref, je m'arrête ici. Mais pour le bilan économique, bon, on a parlé de la baisse d'impôts, mais je reviens sur la taxe scolaire. Il y a eu aussi beaucoup de baisses de tarifs pendant le passage de M. Legault.
Permis de conduire.
Permis de conduire, notamment, et aussi de limiter les factures d'hydro, parce que quand la Régie de l'énergie a proposé son augmentation de factures, M. Legault a mis son veto. Donc, ça faisait quand même partie là, de l'engagement politique de M. Legault d'alléger le portefeuille, en fait, de nous libérer, de nous soulager. Merci, c'est ça le mot que je cherchais, le portefeuille.
Antonine Iaccarini, merci d'être restée une petite demi-heure de plus avec nous.
Ben là, c'est normal.
C'est très, très, très plaisant. On se reparle demain à midi dans le caucus. J'imagine qu'on n'aura pas fini avec la démission de François Legault.
À moins qu'il y ait une autre bombe politique. Il y en a tellement à tous les jours ces temps-ci.
Ouais, on se souviendra que la démission de Pablo Rodriguez avait été justement assombrie par le départ de Christian Dubé. C'était quand même une journée folle en politique.
Complètement.
Après la pause, on parle avec l'ancien directeur des communications pour la CAQ, un chroniqueur que vous adorez, un vulgarisateur d'actualité hors pair. C'est Lambert Drainville qui s'installe avec nous. Restez des nôtres, on est en émission spéciale d'émission de François Legault sur les ondes de Boulevard 102.1 dans l'émission On en jase.
On en jase à Boulevard 102.1. Dossier du jour, ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
13h06 minutes exactement, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte. À la météo aujourd'hui, 4 degrés pluie intermittente, moins 3 degrés neige pour demain et moins 9 degrés pour vendredi, neige intermittente. Je vous rappelle, 418-971-1021 pour réagir avec nous. Pierre pose une extraordinaire question en disant « Coudonc, quand la caméra va aller sur François Legault à cette heure au Centre Bell, va-tu se faire heureux ou va se faire applaudir maintenant que c'est terminé? » Très bonne question, Pierre. Continuez d'interagir avec nous. BLVD.fm, c'est la web radio pour nous écouter. Les meilleurs moments vont se retrouver également sur le blvd.fm de cette émission. Vous avez aussi notre application Boulevard 102. C'est le temps de la télécharger parce que vous pouvez nous écouter partout où vous allez être. twitch.tv/blvd/fm. Vous êtes plus qu'à l'habitude. Merci de suivre cette émission spéciale et allez vous abonner à notre page YouTube.
N'hésitez pas à réagir en grand nombre sur Twitch. On surveille ça de près.
Exactement. Lambert Drainville est avec nous. Ex-directeur des communications au niveau de la CAQ. Également excellent vulgarisateur d'actualité. Lambert Drainville, as-tu été surpris par cette démission de François Legault?
Pas tellement, non. J'avais eu quelques discussions avec d'anciens collègues au cours des derniers jours. Je ne sais pas si tu te rappelles nécessairement, là, mais François Tremblay, le député du Saguenay, qui s'est fait mettre dehors il y a quelques jours.
Oui! Ben,
je trouvais que c'était long.
C'est vrai!
C'était long avant qu'il le mette dehors. Tu sais, alcool au volant, tu te fais prendre pour alcool au volant d'habitude en tant qu'élu. Écoute, quasiment immédiatement, tu es dehors du caucus. Ça avait comme pris 48 heures quasiment pour qu'il le sorte. Fait que je me disais, comment ça se fait que ça a pris autant de temps? Là, depuis le temps des fêtes, c'est pas de son, pas d'image. On n'avait aucune nouvelle. À part ça, justement, ça avait été là avant qu'on ait une réaction du côté du bureau du premier ministre. Fait qu'on dirait que je me disais, est-ce qu'il y a des discussions là, sur un autre sujet qui ont cours présentement? C'est l'impression que j'avais et les discussions que j'avais à l'interne. À ma grande surprise, bien honnêtement, Jeff, avec les anciens collègues, me portait à croire que peut-être, oui, il y avait des discussions qui se ramenaient présentement, mais écoute, c'est sûr que si j'avais été convaincu, Jeff, que ça se serait passé aujourd'hui, j'aurais été le premier sur la nouvelle. Alors, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas un petit peu de surprise. Je pense quand même que c'est la bonne décision que M. Legault prend aujourd'hui.
Lambert, à l'intérieur de la CAQ, parce que tu jases avec du monde, comment qu'on se sent présentement? Est-ce qu'on est en état de pleurer François Legault ou on prépare déjà la prochaine course à la chefferie?
Mais tu sais, moi, c'est important de dire là, que moi, ça fait un petit bout que j'ai quitté la CAQ et j'essaie de faire preuve du plus de neutralité possible dans mes interventions. Je vais quand même dire aux gens que ce soit pour la CAQ, pour le PQ ou pour le Parti libéral, la politique, ça attise des liens qui sont pour la vie, tu sais, surtout quand tu es au gouvernement, ou est-ce que c'est rare, Jeff, que tu te lèves le matin, tu travailles au gouvernement, puis tu ouvres tes journaux, puis c'est des super bonnes nouvelles, tu te dis, tabarouette que le gouvernement est bon, tu sais, fait que t'es en constante gestion de crise, tu vis des campagnes électorales aussi, où est-ce que là, t'es 30, 35, 40 jours, back-à-back, dans l'adversité, à travailler, à essayer de faire gagner ton parti. Alors, tu sais, la réalité que tu vis en tant qu'élu ou en tant qu'employé politique, bien, il y a juste les élus, les employés politiques qui peuvent la comprendre. Alors, c'est sûr que ça tisse des liens. C'est comme aller à la guerre, tu sais. Depuis que j'ai quitté le parti, j'ai gardé de très bons liens avec plusieurs employés qui ont également quitté depuis parce que c'est très éreintant, la politique. Alors, c'est sûr que pour plusieurs d'entre eux, aujourd'hui, c'est une journée, un sentiment un petit peu spécial parce que quand tu es au gouvernement, ben même si tu travailles pour un ministre ou pour un député, reste que ton patron, le patron des patrons, ben ça demeure toujours le chef du parti et le premier ministre. Monsieur Legault. Alors, oui, un petit sentiment de comme, ben, spécial, un petit sentiment spécial pour plusieurs d'entre nous, employés présents et passés. Mais encore une fois, comme je le dis, d'une perspective politique qui faisait aucun doute, puis on s'en est tellement souvent parlé, JF, que ce n'était plus seulement une question de quel sera le legs politique et quel sera qu'est-ce qui restera de la carrière politique de François Legault advenant qu'il soit sur les rangs en 2026, en octobre. C'était devenu une question de quel sera l'avenir du véhicule politique qu'il a lui-même fondé en 2011 et qu'il a lui-même amené au pouvoir en 2018. Si on se fiait au sondage, la possibilité était réelle que la CAQ ne fasse élire aucun député et très certainement n'est pas le statut de parti officiel lors de la prochaine élection. Et ça l'aurait vraiment posé plusieurs questions, à savoir quelle serait la suite et l'avenir de ce véhicule politique-là. Et M. Legault souhaitait-il être le fondateur de la CAQ tout autant que celui qui va l'avoir malheureusement enterré? J'imagine que ça faisait partie des éléments qui... ont entré en ligne de compte dans sa réflexion.
Oui, bien, c'est sûr qu'à la fois, il y a des émotions négatives. certains vont s'ennuyer de François Legault, mais c'est sûr qu'à l'interne, présentement, chez certains, c'est un soulagement de dire « Hey, on a peut-être une chance de relever cette partie-là. » Puis certains députés qui se disent « On a peut-être une chance, il nous reste quelques mois pour tenter de regagner la faveur de la population puis de se faire réélire. »
Absolument, c'est un excellent point. Ça fait partie des éléments, tu sais, quand je te parle des éléments qui entrent en ligne de compte dans sa réflexion, c'est sûr. Tu sais, on revient du congé des fêtes, là. Déjà dans les derniers mois, c'était pas facile. Tu sais, il a perdu quand même son ministre le plus populaire juste avant les fêtes, perdu un de ses meilleurs amis au sein de son équipe en Lionel Carman quelques semaines plus tôt. Des élus au sein du caucus qui étaient très stressés de voir, de perdre leur job en octobre. Rajoute à certainement une introspection au courant des fêtes. Tu sais, je veux dire, tu te retrouves dans. Te retranches dans tes tranchées, justement, tu retournes dans ta famille. Puis quand tu vis une situation comme ça où ce que ton niveau d'impopularité est très, très élevé, ben c'est sûr que tu as les discussions avec ta femme, avec tes fils, avec les gens de ton entourage. Ma tante, mon oncle, partie de ma... qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je devrais faire? Puis tout le monde a sa petite idée là-dessus. Puis tu sais, le gars, au-delà de la CAQ, je veux dire, est en politique depuis 98, a été ministre d'à peu près tout, là, tu sais. C'est un gars qui a beaucoup donné, qui vieillit, et... ben je pense qu'on peut quand même lever notre chapeau, messieurs, puis je fais ça le plus objectivement du monde. Vous me reprendrez si vous n'êtes pas d'accord, comme vous le faites toujours, mais... T'sais, au même titre que j'étais pas nécessairement aligné avec chacune des décisions que Valérie Plante, l'ancienne mairesse de Montréal, prenait à l'époque où elle était mairesse, j'ai salué, quand elle a quitté, le fait qu'elle ait eu l'intelligence de dire ben, « Regarde, j'ai donné tout ce que j'avais, mes chances de réélection sont extrêmement minces, les Québécois veulent voir quelqu'un d'autre à ma place, bien c'est correct, je vais quitter selon mes termes, au bon moment ». Sans attendre trop longtemps, comme l'ont fait Joe Biden, rappelez-vous, comme l'a fait Justin Trudeau, rappelez-vous, bien, M. Legault, on peut quand même lui lever notre chapeau de dire, bien, je pense qu'en faisant ce geste-là, il démontre encore une fois, comme il l'a fait à de nombreuses reprises au courant de sa carrière politique, je pense évidemment en premier lieu à la pandémie, bien, encore une fois, il démontre qu'il fait passer les intérêts des Québécois avant ses intérêts personnels. Et je pense que pour ça, il faut lui lever notre chapeau.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Lambert Drainville. Il faut saluer son 25 ans en politique. Il faut saluer son 7 ans à titre de premier ministre. Et tu l'as si bien dit, il y a eu une pandémie à gérer. Un impondérable qu'on ne croyait pas possible. Et il a eu justement à gérer ceci. Puis comme il a dit, il a essayé de sauver le plus de vies. Il a fait son mieux. Et il n'y a pas de doute pour moi dans mon esprit. Il y a déjà des sondages qui sont sortis du côté de Léger Québécois TVA avec les futurs candidats à la chefferie. 10% Simon-Jolin Barrette. 10% Geneviève Guilbeault. On a un Guy Cormier à 4%. On a Mathias. Qui qu'on a d'autre dans le sondage?
Oui, c'est les sondages de novembre dernier qui ont été réalisés par Léger. Donc, c'est, dans le fond, c'est, la question est simple. Le meilleur successeur de François Legault. Les deux premiers, évidemment, Simon-Jolin Barrette et Geneviève Guilbeault à 10%. Par la suite, Sonia Lebel qui est ressortie chez plusieurs de nos auditeurs au cours des dernières minutes à 8%, Christine Fréchette à 5%, et par la suite, Bernard Drainville et Guy Cormier, chacun à 4%.
Lambert Drainville, je te demande de te mouiller, c'est qui la meilleure personne pour relancer la CAQ?
Pas facile. Moi, je te dirais que la réponse logique, ce serait quelqu'un de l'externe, parce que le défi avec la CAQ, c'est que, comme son nom l'indique, c'est une coalition, la coalition Avenir Québec, donc c'est d'anciens adéquistes libéraux et d'anciens péquistes qui ont décidé de former un parti. Et la colle qui parvenait à garder ces différentes franges ensemble, ben c'était François Legault. Et là, c'est la première course à la chefferie que ce parti-là va vivre. Alors, qui, dans les noms que tu viens de nommer, a la capacité de rallier autant les bleus que les rouges que les autres? C'est pas nécessairement évident, parce que tu regardes Simon-Jolin Barrette, c'est un bleu. Tu regardes Geneviève Guilbeault, c'est une rouge. Tu regardes Bernard Drainville, c'est un bleu. Tu regardes Guy Cormier, probablement un rouge. Tu regardes Sonia Lebel, rouge. Alors, quand je dis qu'une candidature de l'externe serait idéale, possiblement, pour capable de garder ces différentes franges-là collées ensemble. C'est ce qui me vient en tête, mais Guy Cormier a, pas plus tard que cette semaine, confirmé qu'il non seulement n'était pas intéressé à la chefferie libérale, qu'il n'était pas intéressé à faire le saut en politique à court, moyen, long terme, présentement. Donc, qui ce sera? Est-ce qu'il y en aura un? À suivre. Mais présentement, j'ai beaucoup de difficultés à te donner un candidat qui a l'avance. Je pense que ça va jouer vraiment durant la course à la chefferie.
Juste rapidement, Lambert, avant de te quitter, on parle de rouge et de bleu. C'est un peu ça la confrontation au sein de la coalition, là, on va se dire, avec le PQ qui est aussi fort, puis les libéraux qui sont un peu moins forts en ce moment avec tous les scandales qu'il y a eu avec Pablo Rodriguez. Est-ce que ça pourrait être stratégique de la CAQ de dire on prend peut-être plus une avenue un peu plus libérale, un peu moins... pas nécessairement moins nationaliste, mais un peu plus aligné à un parti comme le Parti libéral pour aller chercher puis devenir, en quelque sorte, le choix des électeurs qui ne sont pas nécessairement souverainistes?
La vérité, c'est que la réponse à cette question-là, la seule personne qui l'a, ça va être le prochain chef. Et c'est les militants du parti, c'est les militants de la CAQ qui l'éliront, ce prochain chef-là. Et dépendamment, encore une fois, si c'est, comme je te dis, Geneviève Guilbeault ou Sonia Lebel ou quelqu'un qui est plus identifié rouge, bien, possiblement que si c'est une personne comme ça qui est choisie, c'est que les membres, nécessairement, vont avoir choisi, effectivement, une option plus fédéraliste. Mais une chose est sûre, Mathias, pour si tu es un militant péquiste ou si tu es un militant libéral, présentement, c'est la plus... J'entends dans le micro, Jeff, je suis désolé, j'ai comme...
C'est qu'on a Éric Gingras qui nous appelle, et puis là, Mathias répondait, mais avec sa grosse voix, on l'entend.
Oui, je suis désolé, je m'excuse, mais c'est ça. Je disais que, peu importe qui ce sera, si tu es un militant libéral ou un militant péquiste ce matin, particulièrement un militant péquiste, au même titre que si tu étais un militant péquiste, tu voulais que ce soit Pablo qui reste là et tu voulais que ce soit François Legault qui reste là, c'est la pire des nouvelles pour eux présentement. Ça, c'est certain, parce que avec un nouveau chef, soudainement, tous les espoirs sont possibles si tu es la coalition de Québec.
Lambert Drainville, c'est toujours un bonheur de te parler. Suivez-le sur les médias sociaux. C'est un excellent vulgarisateur d'actualité et d'actualité politique. Puis il y a plein d'entrevues super funnées comme celle que fait dans un salon de thé avec Pierre Poilievre. On se reparle vendredi, mon chum.
On se reparle vendredi. Lâchez pas, c'est une grosse journée en politique. Puis merci aux auditeurs d'être à l'écoute. C'est très plaisant.
On n'est pas heureux nécessairement, là, parce que je me réjouirai jamais de la démission d'un premier ministre, mais c'est toujours le fun, ces journées-là. Salut, mon chum. Passe une belle journée.
Yes, toi aussi, mon gars.
Bye-bye. Salut. Lambert Drainville, que vous entendez les mercredis et vendredis avec nous, le vendredi notamment en format duo avec Farnell Morisset. Avant de faire la pause, on le fera pas patienter très longtemps. On va aller rejoindre justement Éric Gingras, il est président de la centrale syndicale du Québec. On le sait, la CAQ, Mathias, livre des combats féroces avec les différentes centrales syndicales. Donc, on va faire le bilan des relations de travail et des relations avec les syndicats de François Legault. Monsieur Gingras, merci beaucoup d'être disponible pour nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et Monsieur Gingras, comment qu'on analyse ce départ de François Legault à brûle pour point comme ça, car ça s'est fait là, ce matin à 11h?
Je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Là. La perte de confiance des Québécoises et des Québécois, mais aussi de beaucoup d'acteurs de la société civile, différentes organisations, dont bien sûr la nôtre. On a dit là, depuis quelques mois que la perte de légitimité du gouvernement aussi bas dans les sondages, qui essayait toutes sortes de projets de loi, toutes sortes d'affaires, et que là, bien, il arrive à cette réalité. Il aurait pu faire un autre choix. Il y a plusieurs mois de ça, il aurait pu faire un autre choix, celui de s'élever au-dessus, puis trouver des façons de rassembler les gens. A décidé davantage de nous diviser, de tenter de faire des gains un petit peu à droite pour contrer, justement, dans des aspects électoralistes, la montée du Parti conservateur, etc. Donc, quand il a fait ce choix-là, ben la dernière chose qui lui restait à faire, c'est fait ce qu'il a fait aujourd'hui et démissionner.
Est-ce que ça va faire en sorte que la fameuse guerre sociale annoncée par votre collègue Magali Picard à la FTQ, cette tension-là va diminuer avec le départ de François Legault?
Ben, on l'a dit à la CSQ lors de notre conférence de presse, il y a même quelques jours de ça, là, pour le début de l'année. Nous, on tend la main puis on veut le retour du dialogue social. Alors là, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les prochains mois? Il n'a pas encore quitté. M. Legault. Donc, il y a encore des ministres qui sont là. Là, maintenant, il y en a qui vont être, qui risquent d'être accaparés avec une possibilité de remplacer M. Legault. Là, ce qu'on va souhaiter, c'est de tout mettre sur la glace. Écoutez, s'il y a quelques mois, on disait que c'était illégitime les projets de loi qui étaient déposés. Aujourd'hui, alors que le premier ministre annonce qu'il va partir, annonce qu'il risque d'avoir probablement dans les prochains jours plusieurs ministres intéressés à le remplacer, ben là, on peut pas, d'un autre côté, essayer d'imposer des enjeux, comme des projets de loi qui nous ont été déposés. Puis oui, bien sûr, projet de loi anti-syndicaux, mais pas que ça. Il faut mettre ça sur la glace, puis se dire ben, que tout ça sera présenté à la prochaine élection. Et ce sera aux Québécoises et aux Québécois de se prononcer. Là.
Donc, pour vous, étant donné que François Legault démissionne, les travaux parlementaires et les potentiels projets de loi doivent tous être mis sur pause, notamment le projet de loi numéro 3.
Bien, écoutez, à part d'enjeux qui nécessitent là, de l'urgence, comme ça pourrait toujours arriver, un gouvernement doit continuer à gérer les affaires quotidiennes. Écoutez, à la CSQ, on représente beaucoup de gens dans le réseau de l'éducation, du collégial, de la petite enfance, donc il peut y avoir des éléments qu'il faut traiter. Mais lorsque on veut changer les choses, lorsqu'on annonce qu'on veut modifier les façons de faire, comme beaucoup de projets de loi, comme celui sur la Constitution québécoise, comme celui du projet de loi 3, vous l'avez nommé, qui modifie le régime syndical, ben écoutez, là, on se retrouve dans une période où le gouvernement ne peut pas aller de l'avant avec ça et qu'on va se retrouver lors de la campagne électorale.
Est-ce que vous demandez une rencontre en urgence avec le ministre du Travail, M. Jean Boulay?
C'est certain qu'on va laisser la journée passer aujourd'hui, mais qu'on va demander des rencontres avec les différents ministres concernés. Ministre du Travail, bien sûr, de l'Éducation, de la Santé, de la petite enfance, pour se dire, OK, là, comment, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Le gouvernement, là, on sait, là, c'est comme ça que ça se fait, un premier ministre qui démissionne, mais le Québec n'arrête pas. Donc, on doit continuer. Donc, oui, ça doit continuer de gouverner, la gestion quotidienne, bien sûr. Mais pour le reste, des grands changements, ben ça devra arriver là en campagne électorale, puis les partis seront tous sur la ligne de départ.
En terminant, M. Gingras, vous représentez énormément de travailleurs dans le domaine de l'éducation et de la santé. Quel bilan vous faites des 7 ans de François Legault au pouvoir dans ces deux domaines?
De façon très transparente, très honnête, c'est vrai qu'il y a eu de l'argent qui a été mis par le gouvernement de François Legault. Il y a eu des investissements, notamment dans les immeubles. On sait qu'il y avait la vétusté était très présente, notamment en éducation. Donc, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier d'où on partait. On avait un gouvernement libéral avec l'austérité qui a coupé, coupé, coupé. Donc, on s'est à peine sorti la tête de l'eau. Alors, il faut toujours faire attention avec ça. Est-ce qu'on a amélioré les salaires? La réponse, c'est oui. Bon, il y a eu une bataille épique entre les organisations syndicales pour y arriver. Donc, ce n'est pas simplement là, de gaieté de cœur que le gouvernement le fait. Mais globalement, oui. Par contre, les deux dernières années, cette façon aigrie-là de chercher le combat, puis ça s'est traduit, bien sûr, en 2023 dans le secteur public. Mais après ça, là, combien de fois on a entendu qu'il voulait en découdre à se comparer à Rocky? Et je pense que c'est là les erreurs. Un gouvernement qui se sortait de la pandémie voulait mettre son étampe sur le quotidien politique au Québec et a décidé de le faire là, justement, non pas en rassemblant, mais en divisant. Puis ça, malheureusement, c'est ce qu'on va se rappeler de ces dernières années. Et bien sûr, la pandémie, parce que la pandémie, c'est un bel exemple. Il y a eu du travail qui a été fait pour justement, puis il l'a dit en conférence de presse, pour réussir là, à avancer. Puis on a mis les organisations syndicales, patronales au centre, pour justement réussir à aller de l'avant et à ce qu'il y ait des choix qui soient faits au-delà des conventions collectives. Ça s'appelle du dialogue social. Et ça a été fait. Pourquoi avoir voulu faire autrement dans les dernières années? Malheureusement, ben ça sera à lui de répondre. Mais pour l'instant, on espère revenir au dialogue social, revenir à un dialogue sain entre les organisations, dont sont, entre autres, les organisations syndicales. Et c'est comme ça qu'on tend la main pour la suite des choses.
Éric Gingras est président de la Centrale syndicale du Québec. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui à l'émission On en jase. Toujours un plaisir de vous parler et on vous souhaite une bonne continuité.
Merci, bonne journée à vous.
Merci, M. Gingras. Mathias, tu me fais signe. Circulation.
Oui, juste vous dire, en ce moment, il y a un léger ralentissement qui commence à se créer. Capitale direction ouest, à hauteur de boulevard Neuviade. Si jamais vous avez des informations, 418-971-1021.
On fait une courte pause à l'émission On en jase, spéciale sur la démission de François Legault, démission annoncée à 11h ce matin. Après la pause, on va parler avec Étienne-Alexandre Beauregard. Il a rédigé les discours de François Legault alors qu'il avait seulement 21 ans. Donc, on va rentrer un petit peu dans le personnel de François Legault et également, on va lui demander quelle vision il voit pour la CAQ, un ancien parti pour lequel il a travaillé. Alors, on s'entretient avec Étienne-Alexandre Beauregard immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase. 13h32, vous êtes à l'émission On en jase spéciale sur la démission de François Legault qu'il a annoncé à 11h ce matin. Le retour de Gravel va suivre de 14 à 18h. Plusieurs invités. D'ailleurs, Denis va venir en fin d'émission nous parler justement des invités qui vont venir discuter avec lui de la démission de François Legault. Manquez pas Marceau du soir avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. Et on reprend ça demain matin dans Marceau le matin. Victor Henriquez, qui est remplaçant Antonine Iaccarini dans le caucus durant ses vacances, sera avec nous demain matin, justement. On va évidemment revenir sur la démission de François Legault et les différentes réactions. Il y a une rencontre très importante ce soir de la CAQ. J'imagine qu'on va en savoir plus sur la suite des choses. Avant de parler avec Étienne-Alexandre Beauregard, Mathias, la vie continue et il y a un incendie au centre-ville de Québec.
Oui, c'est pas parce que le premier ministre du Québec a démissionné que tout s'arrête. Présentement, ça se passe dans le secteur de la Basse-Ville, près de Saint-Roch. C'est sur la rue Rennes qu'on nous dit qu'il y a présentement un incendie, donc secteur à éviter. Merci à Nicolas, l'auditeur qui nous tient au courant. Tenez-nous au courant si jamais il y a quoi que ce soit. 418-971-1021.
Exactement, la rue de la Reine qui est perpendiculaire aux rues de la Couronne et Dorchester, donc les accès à la Haute-Ville. Alors soyez patients si vous devez vous déplacer en ville. Vous rappelez que le Canadien de Montréal a perdu 3-2 hier en prolongation contre les Capitals de Washington. Prochain match du Canadien, c'est ce jeudi à Buffalo face au Sabre de Buffalo. Il a rédigé les discours pour François Legault. Il a publié à l'automne dernier son livre « Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur ». Il est philosophe, il est également sociologue. Étienne-Alexandre Beauregard, merci de participer à cette émission.
Merci à toi pour l'invitation,
Jeff. Ça fait plaisir. Étienne-Alexandre, avant de se lancer dans les bilans de la CAQ avec toi, comme on a fait avec nos autres invités, je veux savoir, travailler avec François Legault, c'était comment? Est-ce que c'était un homme sympathique? Est-ce que c'était un homme très rigoureux? Comment c'était de travailler avec lui?
Écoute, moi, pour moi, François Legault, c'est quelqu'un qui a des qualités personnelles qui sont exceptionnelles. T'sais, pour vrai, travailler avec lui, c'est toujours un charme. Moi, je me rappelle de quelqu'un d'humble qui n'était pas du tout condescendant, qui ne regardait pas les gens de haut. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a une bonne partie du Québec plus populaire qui s'est retrouvée en lui, notamment pendant la pandémie. Pour moi aussi, c'est sûr que c'est toujours quelqu'un qui a tellement aimé le Québec, qui aime beaucoup sa culture. C'est pas quelqu'un qui fait semblant aussi. Là, moi, je me souviens beaucoup de discussions avec lui, comme quoi qu'il lisait beaucoup, qu'il allait au théâtre, qu'il écoutait la télé qui se produit ici. C'était vraiment un nationaliste sentimental, un nationaliste d'instinct qui était viscéralement attaché à notre nation. Puis je pense que ça paraissait aussi dans son action politique. Puis naturellement, c'était aussi quelqu'un, en tout cas sur le plan personnel, que moi j'ai toujours trouvé très, très loyal, très, très généreux. Que quand il aimait quelqu'un, il le défendait. Puis moi, typiquement, quand j'ai fait des lancements de livres, etc., il était toujours là. Puis ça voulait dire beaucoup pour moi. Puis je pense que c'est quelqu'un justement qui a un attachement comme ça, puis qui est pas, comment dire, que pour lui, c'est pas du fake là, quand il s'attache à quelqu'un. Puis ça, moi, j'ai une grande dette envers lui à ce niveau-là. Là.
Donc, le papa Legault qu'on a connu durant la COVID, puis et qu'on a très bien senti lors de son point de presse aujourd'hui, il existe vraiment et c'est le François Legault que tu as connu. Ah.
Oui, oui, absolument. Tu sais, il y en a probablement des personnalités publiques, disons le personnage public et le personnage privé sont deux choses, mais le François Legault que j'ai connu, c'est quelqu'un justement de très authentique, quelqu'un qui est exactement pareil derrière les portes closes que devant une caméra. Là. Puis là-dessus, je pense aussi que son authenticité, ben ça fait que des fois, justement, quand on écrit un discours pour lui, il va pas toujours se coller sur le texte, il va dire quelque chose qu'il ressent, mais tu sais, comme il l'a souvent...
Comme Cruella, par exemple.
Hein?
Comme Cruella, par exemple.
Oui, ça, je devine que c'était pas dans les discours. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui aime rire aussi, quelqu'un qui se prend pas trop au sérieux. Je pense que c'est bien à l'image de nous aussi comme nation au Québec. Tu sais, je pense pas qu'on ait les gens qui se prennent le plus au sérieux. Puis lui, c'est quelqu'un qui l'incarnait, tu sais, dans le sens que faire des blagues quand c'était dans une conférence de presse pour détendre l'atmosphère, c'était vraiment quelque chose qu'il avait en lui. Je pense que ça fait partie aussi des choses qui l'ont rendu sympathique à beaucoup de gens, tu sais.
Puis vous l'avez connu, c'est un homme déterminé aussi, ça se voyait dans ses entrevues. Au cours des derniers mois, il semblait très déterminé à dire qu'il allait rester. Et là, d'un coup, il a pris par surprise beaucoup de personnes, il annonce son départ. Est-ce que ça vous a surpris?
Ben, j'avoue que moi, je ne le savais pas avant de le voir arriver dans les journaux. Je n'étais pas du tout dans le secret des dieux. En même temps, tu sais, moi, je pense que c'est normal qu'à l'automne, il soit dit, je vais me battre autant que je peux pour voir si je peux pas remonter le navire. Parce que c'est quelqu'un, tu sais, comment dire, moi, j'ai de l'admiration quand même pour quelqu'un qui fonde un parti politique de rien, qui réussit à se rendre premier ministre 7 ans après avoir fondé ce parti politique-là. Tu sais, il y en a beaucoup qui auraient rêvé de faire la même chose, qui se seraient cassé la gueule. Puis à ce moment-là, oui, il y avait une vision qui était très ambitieuse, autant sur l'aspect nationaliste que sur l'aspect rénover le modèle québécois. Certains aspects sur lesquels il y a eu plus de réussite, certains aspects où il y en a eu moins. Mais je pense que c'est normal aussi qu'il ait voulu se battre jusqu'à la fin. Puis après, je vous apprends rien si je vous dis qu'en politique, quand on se prépare à quitter, on dit qu'on va rester jusqu'à la seconde où on dit qu'on quitte. Hein, ça, c'est le vieux truc du monde, là.
Mais j'aime ça t'entendre dire qu'il y a eu l'audace de créer un parti politique et que plusieurs se seraient plantés parce que j'ai l'impression que le Parti populaire du Québec va peut-être être dans la colonne des échecs plus que réussite comme la CAQ.
Peut-être. Ouais, je
Étienne Alexandre, t'étais au sein de la CAQ, tu rédigeais les discours de François Legault, tu t'es détaché de la CAQ. Tu représentes la jeunesse, politique au Québec. Tu es plus de droite. Qu'est-ce que la CAQ doit faire pour aller chercher un électeur comme toi?
Ouf, mais écoute, je vais le prendre un peu plus large. Moi, je pense que, étrangement, même si la CAQ est très bas dans les sondages présentement, tu regardes le discours public, ce que c'est devenu par rapport à quand le parti a gagné en 2018, je pense que ironiquement, on peut dire que le Québec est probablement devenu plus nationaliste puis plus au centre-droit que quand la CAQ a gagné. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est un parti qui a encore un potentiel théorique dans la mesure où c'est pas un rejet du centre-droit en ce moment. C'est pas les gens qui disent on aime beaucoup le modèle québécois, on veut vraiment monter les taxes. Pas des gens qui disent le nationalisme c'est fini, on voudrait plus d'immigration, on voudrait moins de Français, etc. C'est pas là que le Québec est en ce moment. Après, tu sais, l'alternance au pouvoir, c'est normal aussi. Fait que rendu là, la balle est un peu dans leur camp, mais moi je pense que, comment dire, il y a encore de la place pour des gens qui sont à la fois nationalistes et qui sont économiques. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien si les deux partis, en fait, qui ont un peu une dynamique quand tu regardes sur les médias sociaux, quand tu regardes dans l'opinion publique, c'est le Parti québécois qui incarne cet aspect nationaliste, puis le Parti conservateur qui incarne un peu l'aspect économique aussi. Fait que tu sais, j'ai l'impression, le défi, moi, si j'étais à leur place, je dirais comment est-ce qu'on est capable de rassembler à nouveau ces deux mouvances-là, parce que c'est un peu ça le défi en ce moment.
Est-ce que c'est possible de le faire avec un PQ qui est maintenant à 34% dans les sondages, qui est bien implanté au niveau des francophones, à 41% du vote francophone? Est-ce que c'est encore possible de le faire pour la prochaine élection? Il faut plus le voir à long terme?
Ouais, je pense que souvent, les réalignements, ça prend du temps. Après, moi, je pense que la grande inconnue pour la prochaine élection, là, on s'entend qu'il y a juste le PQ qui a un chef qui est crédible pour gouverner en ce moment. Le Parti libéral et la CAQ n'en ont pas. Mais c'est toujours la question un peu de l'inconnu des fédéralistes qui votent pour le Parti québécois en ce moment. Parce que quand on regarde dans les sondages, que ce soit les G ou les autres, il y a toujours à peu près entre 25 et 30% des électeurs qui disent qu'ils appuieraient le Parti québécois, mais qui voudraient pas de la souveraineté. Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que pour n'importe quel parti, que ce soit les libéraux, que ce soit les caquistes ou même le PCQ, c'est un peu ces gens-là qu'il faut essayer d'aller séduire un peu, justement, nos espèces de nationalistes autonomistes que la CAQ avait été capable d'attirer jadis. Là, s'ils veulent aller ailleurs, probablement parce qu'ils étaient insatisfaits avec le gouvernement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable d'aller leur parler? S'il n'y a personne qui est capable d'aller leur parler puis qui reste dans la colonne du Parti québécois, ben à ce moment-là, probablement que le résultat va pas vraiment changer d'ici à l'élection. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense que c'est toujours difficile de prédire ce qui va se produire 10 mois d'avance.
Oui, ben justement, vous parlez de personnes qui doivent aller rejoindre ces personnes-là. Vous avez été à l'intérieur du parti. Selon vous, quelle serait cette personne-là qui aurait peut-être la capacité d'aller rejoindre cet électeur-là? Est-ce que c'est Simon-Jolin Barrette? Est-ce que c'est Geneviève Guilbeault? Est-ce que c'est Sonia Lebel? Est-ce que ça va prendre quelqu'un de l'extérieur?
C'est sûr que ça va être intéressant de voir qui va vouloir se lancer parce que bon, il y en a qui ont des enjeux familiaux, il y en a qui ont pas envie d'y aller en ce moment. Il y a toutes ces questions-là. Moi, écoutez, j'ai pas de personne en particulier en tête, mais si on fait le portrait robot, mettons, moi je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est identifié aux nationalistes parce que les membres de la CAQ, les électeurs de la CAQ, c'est un peu ça, c'est ça qu'ils recherchent en fait. Là. On s'entend, c'est l'étiquette que François Legault a toujours assumée, c'est l'étiquette que le parti incarne et ça va être de voir qui est capable d'incarner ça puis de montrer justement qu'on peut être fier d'être québécois, qu'on peut être aussi plus au centre droit par rapport à ce que le parti québécois incarne un peu plus à gauche. S'il y a quelqu'un qui est capable, je pense, de faire en sorte que les électeurs renouent un peu avec cet élan de transformation qui a quand même suivi quand on a cassé un peu le vieux monopole entre les fédéralistes et les souverainistes en 2018, ben peut-être que ça va être capable de refaire rêver en fait ceux qui sont identifiés à la CAQ.
En effet, tu as entièrement raison. Étienne-Alexandre Beauregard a rédigé les discours pour François Legault. Il est maintenant auteur. Il a notamment publié le livre « Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur ». Je te remercie infiniment d'avoir participé à l'émission « On en jase » ce midi et au plaisir de te reparler prochainement.
Bien, merci à toi, à bientôt.
Salut Étienne-Alexandre. Étienne-Alexandre Beauregard, toujours intéressant d'avoir justement, tu sais comment j'aime la jeunesse, Mathias, oui. Si tu la représentes. J'aime toujours avoir le point de vue de la jeunesse. J'arrête pas de mentionner sur les ondes de Boulevard 102.1 que moi, je veux que les gouvernements construisent le futur, rêvent à dans 15-20 ans. Puis pour ça, ben ça prend pas juste des hommes ou des femmes de 60 ans. Ça prend du monde de 20 ans qui vont dire « Hey, moi, dans 20 ans, quand je vais avoir 40 ans, moi, ma famille, c'est comme ça que je veux ma société. »
Puis on a l'impression que ça s'en vient de plus en plus rare, des politiciens qui passent sur le long terme puis qui font pas juste penser à la prochaine élection. Je tiens à souligner parce qu'il y a le point nationalisme qu'il a apporté, oui, qui est très intéressant. Puis c'est vrai que sur ce point-là, on parle de bilan de la CAQ puis on cherche des aspects positifs. Aux yeux de la majorité des Québécois, c'est très positif. Tout ce qui est loi 94, tout ce qui est loi 21 qui est venu renforcer la laïcité de l'État. Le gouvernement de la CAQ et Jean-François Roberge, au cours des dernières années, on fait un très bon travail dans ce secteur-là.
Protection du français, excellent travail de la part de la CAQ. Et c'est des sujets, moi, personnellement, qui me tiennent vraiment à cœur. Puis c'est pour ça que j'ai une partie de satisfaction avec la CAQ. Je vois pas juste le mauvais, puis je vois pas juste les scandales à la Nordvolt. Il y a quand même eu du bon travail fait par François Legault. Toujours, tu sais, il faut toujours balancer, oui, le tout dans la vie. Merci, Mathias, de nous avoir éclairé justement sur ces belles réussites de la CAQ. On fait une courte pause à l'émission d'En jase sur Boulevard 101. Je le rappelle, émission spéciale à propos de la démission de François Legault. Il l'a annoncé ce matin à 11h. Après la pause, c'est Denis Gravel qui vient s'installer avec nous. On va récolter quelques commentaires de l'animateur de Gravel dans le retour. Et également, Denis va nous présenter les invités qu'il aura dans son show à compter de 14h parce qu'eux aussi vont parler bien amplement de la démission de François Legault. Émission d'En jase sur les ondes de Boulevard 101, émission qui tire déjà à sa fin. Pour nous joindre, 418-971-101, merci. Vous avez été tellement interagir ce midi, c'était super intéressant. On voit que la politique vous tient à cœur, puis c'est un bon point parce que la politique nous gère, donc ayons l'œil sur la politique. BLVD.fm, les meilleurs moments vont se retrouver immédiatement après l'émission. Vous avez également les meilleurs moments de toutes nos émissions et vous pouvez nous écouter via la web radio, l'application Boulevard disponible sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter. Téléchargez-les. D'ailleurs, notre patron nous a envoyé les streamings d'aujourd'hui. Eh, boy, vous étiez beaucoup à midi. Vous vouliez entendre Antonine Iacarini dans le caucus, son analyse. Faites bien, elle est tellement bonne, Antonine. Twitch.tv/BLVD/FM et allez vous abonner à notre page YouTube où vous retrouvez justement des exclusivités, dont les podcasts que Denis Gravel a fait sur les grands événements. Et parlant de Denis Gravel, il est avec nous en studio. Denis, comment vas-tu?
Ça va très bien. C'est une journée qui a changé radicalement de direction. On est tous un peu dans le même bateau. Je pense qu'on était nombreux à attendre la démission de François Legault, mais personne ne l'attendait aujourd'hui.
7h45 ce matin dans le Pit Stop, on se parlait du sondage Palace Data. On se disait, ouais, à 11% la CAQ. Là, me semble que ça commence à sentir la soupe chaude et François Legault l'avait bel et bien senti.
C'est le seul lendemain de sondage depuis un an où on n'a pas parler de la démission éventuelle
ouais.
de François Legault, tellement on prenait pour acquis, et il nous aura bien eu, que finalement, il allait s'accrocher au pouvoir jusqu'à la prochaine élection. Puis finalement, ben si tout ce qu'on avait à faire, c'est de faire en sorte que ce soit le même score que Québec solidaire qui fasse mm-hmm. en sorte que François Legault parte, on aurait pu voter Québec solidaire pendant une couple de sondages pour accélérer le processus.
T'as tellement raison. Là, je veux pas faire peur à nos invités à Boulevard, puis surtout pas aux invités que t'auras dans le retour, Denis, puis tu vas nous les présenter, mais Max Larouche nous fait remarquer qu'on a été la dernière station à faire une entrevue avec Serge Fiori. Entrevue excellente, d'ailleurs, qu'on a réentendue dans le temps des fêtes. Et on a été la dernière station à avoir une entrevue avec François Legault.
Fait qu'on...
C'était le matin du 17 décembre.
Ouais, vu de même, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont être de plus en plus nerveux de venir nous voir, ou encore les auditeurs, dans le cas d'une fin de carrière politique, vont dire « Hey, invité donc lui, là, il me semble qu'on est dû qu'il débarrasse. »
On est dû qu'il débarrasse. Là, vous allez avoir un politicien en lancé à 15h dans le retour, parce que à 16% des intentions de vote, c'est le meilleur score du Parti conservateur du Québec, et Éric Duhaime va être avec vous.
Ouais, on va parler pour une première fois dans le retour à Éric Duhaime pour justement parler de l'héritage de François Legault, s'il y en a un. Puis je suis un peu curieux de l'entendre sur est-ce que la gestion et la gouvernance de la CAQ, ça fait partie des raisons pour lesquelles lui a décidé de se lancer
en politique
active, parce que je lisais l'hommage qu'il a rendu à François Legault sur les réseaux sociaux, puis il sépare ça en deux. Puis je pense qu'on est plusieurs à se retrouver là-dedans, c'est-à-dire la CAQ de l'opposition et la CAQ du gouvernement.
Mm-hmm.
La CAQ de l'opposition promettait beaucoup de choses qui plaisaient à beaucoup d'électeurs, alors que la CAQ en frais de gouvernement a donné autre chose complètement, en tout cas selon plusieurs observateurs. Éric Duhaime, oui, est deuxième dans les sondages, entre autres avec son Parti conservateur dans la région de Québec. Mais là où le bas blesse présentement, c'est qu'il est un peu dans la même situation que François Legault, c'est-à-dire que lui, en tant que chef, est moins populaire que son parti. Je ne sais pas s'il y a une réflexion qui mm-hmm. part de ça pour lui, comment aligner 2026. Fait qu'on trouvait que c'était la journée peut-être la plus intéressante pour recevoir Éric Duhaime aujourd'hui. Étant donné qu'on a manqué notre coup ce matin, on va se refaire un pit-stop.
Ben oui, Marceau vient vous voir, un pit-stop en PM, 15h30.
Ouais, on va faire le pit-stop inversé, parce que ce matin, on est clairement passé à côté de la grosse nouvelle qui n'était pas encore donc dans l'actualité. Fait qu'on va entendre Marceau. J'ai hâte d'entendre les filles ouais. aussi, parce que je sais que la réaction d'Audrey et la réaction de Véro, entre autres aux annonces de François Legault de ce matin, ça va vraiment pas dans la même direction. On a Marc-André Leclerc, analyste politique, qui va être avec nous autres en studio.
Excellent analyste politique.
On va changer les idées un peu. Alex Leblond va venir nous faire des vrais ou faux sur les impôts. Hein? Quoi de mieux pour faire un peu de léger dans une journée chargée en politique?
Quoi de mieux pour le leg de François Legault que des vrais ou faux sur les au Québec.
Puis, tu sais, à la fin de l'émission, vers 17h30, 17h40, on va boucler avec Antonin Iaccarini, qui va faire aller ses antennes dans le courant de l'après-midi pour voir s'il y a des choses qui commencent à transpirer sur c'est quoi qui s'en vient pour la CAQ et comment tout le monde s'aligne par rapport à François Legault. Puis, on en sait bien peu aussi sur... Quand est-ce que François Legault a pris sa décision? Moi, j'ai de la misère avec. Il a regardé le sondage un matin, puis il s'est dit « Hey, c'est aujourd'hui que ça se passe. »
Non, il devait avoir de la pression à l'interne, sûrement ouais. de la famille également, puis ça a été le coup de grâce. Christian Dubé, hein, le départ de Christian Dubé, il faut en parler. Ça fait mal, ça. On l'a balayé sous le tapis parce que c'est arrivé la journée avant que tout le monde parte en vacances de Noël. Mais quand ton meilleur chum s'en va comme ça, puis claque la porte sévèrement.
Puis on peut penser à Lionel Carman aussi, qui était un proche de François Legault. Fait que Antonine va aller aux nouvelles, ouais. vous la connaissez, puis vers la fin de l'émission, on va regarder avec elle s'il y a du nouveau, s'il y a des nouvelles pistes sur la nouvelle qui prend toute la place aujourd'hui.
En passant, Antonine Iaccarini avait plus d'énergie dans son cellulaire tout à l'heure quand elle a quitté à 13h. Donc, c'est vous dire à quel point elle est sur le beat et pour prendre l'expression, elle est sur le gun.
Je dirais qu'à l'Assemblée nationale, elle doit avoir une coupe de sel assez brûlée aujourd'hui.
Clairement. Mathias Turcotte, merci beaucoup pour ta présence dans l'émission On en jase pour ce spécial d'émission François Legault.
Merci aux auditeurs d'avoir été en si grand nombre pour vrai et d'avoir réagi aussi fort. Continuez durant le retour aujourd'hui.
Restez à l'écoute de Boulevard 101, c'est le retour de Gravel. Lavelle qui suit à l'instant même Marceau le soir avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables à 18h. Et on se reparle demain matin dans Marceau le matin, notamment avec l'excellent analyste politique Victor Henriquez. Courte pause, le retour de Gravel s'en vient. Merci d'être à l'écoute. Bonne fin de journée, guys.
Bonne journée, tout le monde.